Alors, si je clique là, ça fait une grosse caméra. Voilà. Si je clique là, ça met le morceau suivant de la musique. Pour tout à l'heure. Quel streamer! Quelle maîtrise! Techniquement, je crois qu'on est au point. Très frustrant parce que ce très beau morceau qui est en train de commencer, on n'écoutera pas, parce que je pense que je ne ferai pas de pause café tout à l'heure, vu que ça va être un stream extrêmement court. J'ai mis mon réveil à sonner là, il va sonner dans 2h05, voilà, donc c'est un stream express bien sûr. Là j'imagine quelqu'un qui vient sur Twitch pour la première fois ou qui regarde une de nos revues de presse pour la première fois, qui se dit 2h05, c'est un stream court, c'est un stream pas court, c'est comment ? C'est plus long. Il y a Ronan qui écrit dans le chat à l'instant « Bonjour Samuel, Jean Massier rend un bel hommage à Samuel en ce moment chez David Dufresne. » Ça en fait des prénoms, des gens, des Samuel, des David. Et donc il y a Jean qui rend un hommage à Samuel chez David Dufresne. Oh, ils sont trop gentils. Attention, je vais me racler la gorge. Je suis en pleine forme. Vous allez bien ? Ah, je suis heureux de vous retrouver. Bon, petit stream, 2h05 de revue de presse. En même temps, il y a pas milliard de trucs. Grosse présence encore du débat sur la réforme des retraites, bien sûr, puisqu'on attend, on attend les annonces lors de la conférence de presse d'Elisabeth Borne, la première ministre, à partir de 17h30. Il y a Joe Coco, notre ami qui est là, qui dit un peu chelou, mais c'est OK. De quoi parles-tu, Joe? Du raclement de gorge, un instant? C'est rien, je suis en pleine forme, je sors de 15 jours de maladie, j'ai passé 15 jours au lit, c'était formidable. La réforme des retraites, et puis on parlera un petit peu du Brésil aussi. Un petit coup de Noël Le Graët aussi, voilà. Bon. En ce moment, j'ai du mal à trouver des petites infos un peu sympas, un peu, je sais pas, un peu, qui nous parlent d'autre chose que de certaines actualités un peu dures et sinistres, mais bon. Un jour chasse l'autre et peut-être que demain, il y aura des choses un peu plus légères. Pas demain, parce que demain, je suis en double journée. France Info, question pour un champion, donc il y aura un peu moins de revues de presse dans les jours qui viennent. Suis heureux de vous retrouver. Ça va? Quoi de neuf? Je voudrais dire... Je remonte dans le chat parce qu'il y a un message qui m'a beaucoup touché. Que je recherche parce que je voulais saluer cette personne. Où es-tu? Je crois que tu m'as aussi écrit. Oui. Camille. Oui. Ah, oh, mais MMG, il a deviné. Vous êtes fort, hein. Pff, les modos. On est en connexion, hein. Il se passe quelque chose. Vous savez, un des aspects très intéressants de Twitch, bien sûr, c'est l'aspect ensemble, l'aspect communauté. Il y a des échanges au quotidien qui sont humainement, au-delà de nos débats sur l'actualité, extrêmement intéressants et forts. Et donc, il y a Camille, il y a Pépin Camille qui a un badge un peu particulier avec un joli 1, puisque c'est une des premières personnes à avoir follow cette chaîne il y a plus de 2 ans maintenant. D'ailleurs, on n'a toujours pas fêté mes 2 ans, j'ai oublié de fêter l'anniversaire, je ferai un truc un jour. Qui m'a écrit un petit DM, un petit message tout à l'heure par rapport à ce qu'elle vit aujourd'hui humainement et professionnellement, enfin les choses sont liées. Et je voulais te dire, Camille, que j'avais lu ça avec beaucoup d'attention à l'instant, et que je t'envoyais plein de force, voilà, et que les mots que tu avais utilisés par rapport à justement à ce qu'on crée ici en termes de lien m'avaient beaucoup touché. Voilà. Donc Camille, tu n'es pas seule puisque tu es avec nous. Voilà. Je t'embrasse très très fort et merci pour ce message. Oui, effectivement, la cam va beaucoup mieux qu'hier, me dit Rimac. Alors c'était pas la cam, c'est un problème avec OBS, effectivement. Hier, quand j'ai démarré OBS, en fait, tout était. Et donc, même info pour Joe aussi qui a dû se poser la question. Tout était un peu déréglé, des cadres un peu bizarres que j'ai dû refaire. J'avais le visage un petit peu écrasé. J'avais le visage qui ressemblait à une biscotte un peu de profil par ailleurs. Et puis en fait, je me suis dit, vous connaissez ma maîtrise des technologies, que c'était plutôt un truc lié à OBS, peut-être à une mise à niveau, je sais pas trop, un truc un peu étrange, un petit bug, un bug dans la matrice. Voilà. J'ai pas pris la bonne couleur de pilule, quoi. Et effectivement, j'ai redémarré ce matin, et puis les cadres étaient revenus à la normale, voilà. Et j'ai retrouvé ma tête normale, c'est-à-dire que c'est pas beaucoup mieux, mais je suis moins en mode profil biscotte. Voilà. Donc c'est pas tellement un problème de caméra, plutôt un problème de logiciel de streaming. Qui a été réglé, enfin qui s'est réglé tout seul. Allez, je vous lis un petit peu, et puis on y va. Je remercie Christ 3221 pour ce gentil 11e mois d'abonnement. Harry qui. Non, ah non, soyons précis. Harry Chikuma pour le 13e mois d'abonnement. Randy Random 53, merci pour ce 17e mois d'abonnement. Le temps passe vite. Vorose Dénier, merci pour ce 16e mois d'abonnement. Waouh! Lulu Wonder, merci pour ce 8e mois d'abonnement. Des bises pluvieuses de Nantes, si ça peut te consoler, il pleut un peu partout en France, il y a 2/3 du pays qui sont sous la pluie, et ça va durer toute la semaine. Et c'est pas plus mal, ça nous fait un petit peu d'eau dans les nappes phréatiques, et ça nous fait un petit peu de neige, notamment en moyenne montagne. Aujourd'hui, normalement, des stations de moyenne montagne qui en manquent cruellement. Sarah Molly, j'espère que tu vas bien, je t'embrasse, ainsi que Mamie Monique, merci pour le 11e mois. Juroscope, j'ai vu ton sub, merci pour le 11e mois. Merci à tous. Allez, je vous lis un petit peu, ça met de bonne humeur, et puis je vous montre ce qu'il y a dans les journaux. Joe, je sais, Joe, je sais que tu es là, mon ami Joe. Je vais t'envoyer un message ce matin, un texto. Je passe par Twitch. Et est-ce que tu penses que tout va être prêt? N'en disons rien ensemble là, restons un peu secrets. Mais est-ce que tu penses que tout va être prêt pour vendredi? Pour l'hebdo Étienne de vendredi, hein, au niveau de ce que tu sais. Voilà. Et il faut que j'envoie un petit message à Pierre aussi pour savoir si c'est prêt de l'autre côté aussi. Voilà, beaucoup de messes basses pour voilà, un gros move du côté de l'hebdo. Étienne, tellement jaloux du badge de Pépin Camille. Bah oui, mais Camille, elle était là au tout début, tout début. On t'envoie plein de force, Camille. Allez, tu dors quand? Pas assez, Skybreather. Je suis en train de... Voilà, mon système, mon fier système de nuit à 3-4 heures par, de sommeil par nuit depuis 6-7 ans touche un peu ses limites. Je ne cache pas qu'en ce moment, je suis un petit peu fatigué. Et peut-être que je songe à réorganiser un peu mon rythme de travail. C'est un petit peu... Peut-être un petit peu too much. Je vais peut-être un petit peu abuser des bonnes choses. Voilà. Ah, il fait beau à Toulouse. Ouais, à Wayne Music, je ne voulais pas être tout à fait précis au niveau de la météo, mais je crois qu'il y a une partie du sud de la France qui échappe aujourd'hui à la grisaille et à la pluie, effectivement. Michael, j'ai bien vu ton message sur l'article du Monde, mais je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. Je suis un petit peu à la bourre. Il y avait des choses très intéressantes dans le Monde. Dans le Monde hier soir, mais j'ai manqué de temps parce que, comme je vous le disais, je suis un peu fatigué en ce moment pour vous le lire proprement. Et bon, voilà. Donc, j'ai pas, je ne vous propose pas le Monde ce matin, mais à culpa, mais à maxima culpa, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Est-ce qu'il y a Jean? Ouais, Tom, il y a Jean vendredi à la maison. Ouais. Je me suis trompé, en fait, j'ai annoncé Pépé Garcia vendredi. Pépé Garcia, il vient la semaine d'après. Voilà. En revanche, il y aura bien Monsieur Poulpe et Marie Palot et Jean Massier. Petite line-up de folie pour cette émission de vendredi. Salut Alexandra. Merci de ton message. Mais de rien, Michael, merci. Non, mais en vrai, il y avait vraiment des choses très intéressantes dans le monde, comme très souvent d'ailleurs hier. Mais là, c'est vrai que j'avoue que j'ai manqué un peu d'énergie. RJ Post, merci pour ce 14e mois d'abonnement. Cannibal Lecteur, merci pour l'abonnement que tu as offert Occitania. Bon, sinon, qu'est-ce que ça raconte? Vous voulez que je vous fasse un petit sommaire ou pas? Salut Litchi. J'ai bougé un câble parce que j'avais un petit bruit de fond et parfois les câbles passent à proximité de sources électriques et créent des tout petits bruits de fond que je n'aime pas et hop, j'ai bougé deux trois trucs et allez, comme c'est plus propre, je sais pas si vous avez entendu. Ouais, ça vous va, on fait un petit sommaire? Bon, on y va alors. Faut pas que je soulève trop ce bras parce que moquez-vous, mais je suis un peu, je sais pas si je suis un gros rat ou je suis quelqu'un de très économe ou quelque part avec une conscience écologique assez poussée, mais j'ai du mal à jeter les choses. Enfin, j'aime bien user les choses jusqu'à la corde et notamment les vêtements. Donc, pas mal de mes chaussettes sont avec des gros trous dedans, des très gros trous. Mon amoureuse a l'habitude de les chercher, de les trouver et de les jeter. Pareil avec les caleçons, voilà. Et pareil avec tout d'ailleurs. Donc voilà, ce matin j'ai mis. Ce matin, j'ai mis ce t-shirt. Voilà, et bon, bref. Alors, dans le cahier des charges d'Hélène, mon amoureux, ça va à la poubelle, ça. Dans mon cahier des charges, à moi, ça peut faire encore quelques années faciles, du moment que je lève pas le bras, quoi. Voilà, donc, voilà, il faudrait. Voilà, je suis. Mais je trouve qu'on consomme trop, qu'on achète trop de trucs. Voilà, système qui est pas forcément qu'il faudrait un peu repenser. Donc moi j'aime bien user les trucs, voilà. Donc là j'use voilà, ça, tant que ça tient, je pourrais recoudre un coup là. Je couds en vrai, hein, je couds grossièrement, c'est pas très joli, mais attends, c'est quand même un gros trou. Bah ouais, ah, il est énorme. Je pourrais faire un petit point, hein. Non mais je reprise un peu. Il y a tous les champions de la couture dans le chat. Attends, je vais vous dénoncer parce que vous me faites rire. Vous êtes tellement... Attends. Vous êtes tellement... Charlotte, il faut le recoudre ou mettre un patch. Je continue. Attends. Ayame, mais ça se recoud en 2 minutes. J'adore les rois de la couture, là. Larsul, mais il faut recoudre. Hein? Mais Mame Michu, il y a le reprisage aussi, je vous ai vu. Hein? Renan, on peut recoudre, hein, les champions, là, je savais pas que j'avais une communauté de champions de couture, j'adore. Tiens, regarde, Reptis, c'est parti, un fil, une aiguille, et on recoud ça vite fait, bien fait. Hein? Attends, je suis sûr que j'en ai encore. Hein? Il y en a d'autres, là, des champions de la couture, là? Hein? Non, c'est bon, on a notre quota, là. Ah, je vous kiffe. Voilà. Bon, moi, j'achète... en gros, ma consommation de vêtements, c'est genre... Je dois acheter 1 à 2 pantalons par an. 2 jeans, quoi. Bon, à un moment, ça s'use. À un moment, c'est pareil. Quand il y a des trous, à un moment, il faut que je les jette. Je dois acheter... Bon, je mets beaucoup de t-shirts comme ça, unis. Je dois acheter... On va dire... Ouais, peut-être 4... Entre 4 et 8 t-shirts par an. Voilà, et puis Hélène m'achète donc des chaussettes, vous l'avez compris, et surtout des chaussettes, et puis de temps en temps des caleçons. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ça suffit bien, hein. Ça suffit bien. Voilà. Il y a MMGCTF qui a fait un clip du t-shirt trouvé, ça va partir sur Twitter direct. Bon, allez, John is waiting, merci pour le 11e mois d'abonnement, et peut-être que John is waiting pour le sommaire. Alors on y va. Let's go. Je vous fais un petit sommaire, j'attends votre petit go, et puis je vous montre ce qu'il y a dans les journaux ce matin avec allumage de la caméra zénitale, bien sûr. C'est parti, c'est un go, go go go, c'est bon, Clément nous a donné le go go go, c'est parti, attention, allumage de la caméra zénitale, c'est aussi fragile, c'est aussi compliqué qu'un lancement de fusée, ça, attention, 3, 2, 1, je n'ai même pas vérifié si elle marchait ce matin, donc ça va être la vraie surprise, caméra zénitale, hop 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 hop, hop c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, c'est beau comme un sable de Sabel Rio, merci pour le 6e mois d'abonnement, c'est adorable, qu'est-ce qu'il y a dans les journaux ce matin, oh, le suspense est intolérable, il y a... La réforme des retraites. Bon, bah ça y est, maintenant on y est. Hein. 17h30, tout à l'heure, mardi, quelle journée? 10 janvier, conférence de presse de la Première ministre Elisabeth Borne. Ce sera à suivre notamment en direct sur France Info, sur ma jolie chaîne, pour, ça y est, enfin les détails de cette réforme des retraites souhaitée par l'exécutif. Alors, c'est à la une de tous vos journaux ce matin, ou quasiment. Retraite, la. Réforme qui déboussole les Français. On commencera avec ça, l'opinion ce matin, parce que, alors on ne sait pas, on n'est pas encore sûr de ce qu'il y a dans cette réforme, même si on croit savoir globalement et qu'on croit connaître les grandes lignes. Il y a une chose dont on est sûr, c'est que si regarde les sondages, les Français n'en veulent pas. Une très grosse majorité de Français qui ne veulent pas de cette réforme des retraites. Réforme qui déboussole les Français. On commencera avec l'opinion. Alors ce que nous dit l'opinion, c'est assez intéressant. C'est un peu la valeur ajoutée de l'opinion ce matin par rapport à ce qu'on a pu lire hier, par exemple, sur le sujet, c'est que. Des réformes des retraites dans l'histoire de notre pays, il y en a eu d'autres et à chaque fois les Français étaient contre. C'est incroyable. Donc des réformes des retraites, il y en a eu déjà plusieurs et à chaque fois les Français étaient contre et globalement à chaque fois la réforme s'est faite, hein. Sauf quand l'exécutif a reculé parce que c'est arrivé. Donc on verra avec l'opinion que les Français sont en gros systématiquement contre les réformes des retraites, pourquoi, comment, etc. On ira le Figaro, valeur ajoutée aussi du Figaro, parce que hier on a, ces derniers jours, lu beaucoup d'arguments contre cette réforme. Je vous rappelle que une majorité de Français est contre, une majorité d'entre vous, d'après les sondages que je fais, vous êtes contre, la gauche est contre, une partie même de la droite est contre, l'extrême droite, le RN est contre. À un moment, c'est intéressant de trouver des arguments pour. Hein, à un moment, je me suis dit, mais et si je vous lisais des arguments de ceux qui ont pour cette réforme, c'est intéressant intellectuellement, hein, plutôt que d'aller toujours dans le même sens, j'ai trouvé le Figaro. Mais le Figaro, il est super pour. Il est super pour cette réforme. Hein. Retraite, Borne se lance, LR prêt à soutenir la réforme. Bon, ça c'est très informatif, ça mange pas de pain. Et puis vous lisez l'édito du Figaro. Hein. Ce qui est fait ne sera plus à faire. Je lis le titre de l'édito ce matin de Gaëtan de Capelle. Je me dis, ouh, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le Figaro serait pour cette réforme? Et je lis avec l'espoir d'avoir enfin un article pour soutenir cette réforme. Oui! 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 Oui, le Figaro est pour cette réforme. Alors, c'est intéressant de voir pourquoi le Figaro est pour cette réforme. Hein. Toujours intéressant de se frotter à toutes les idées, y compris celles qui ne vont pas dans notre sens. C'est pas clair, ça? Pourquoi cette nouvelle réforme des retraites est indispensable? Voilà. Donc, on lira le Figaro là-dessus. Et on lira l'Humanité, parce que moi, j'aime lire des analyses différentes sur l'actualité. Et l'UMA, il vend debout, bien sûr, contre cette réforme. Hein. Cette réforme des retraites, c'est le choix de la méthode Thatcher. Alors là, on ira faire des petites recherches parce que là, il faut un petit peu de background pour comprendre complètement ce titre de l'UMA. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui voient ce que veut dire l'Humanité là avec ce titre? Pourquoi cette réforme des retraites, c'est le choix de la méthode Thatcher? Oui, Miss Maggie, je sais que vous connaissez Margaret Thatcher, mais l'explication. Ah, bravo, Ryder et Homer. Voilà, c'est la méthode TINA ou TINA. There is no alternative. TINA, TINA. There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Hein. En fait, Thatcher, c'était l'un de ses mots d'ordre, c'est-à-dire il n'y a pas d'alternative à sa politique de l'époque, Margaret Thatcher, l'ancienne Première ministre britannique, de libéralisme, d'ultra-libéralisme, notamment en matière économique et sociale. Il n'y a pas d'autre alternative, c'est moi qui ai raison contre le reste du monde, notamment contre les ouvriers britanniques à l'époque. C'était très 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 tendu entre Margaret Thatcher et la classe populaire. Donc, l'humanité estime que le président Macron et l'exécutif, avec cette réforme et son regard sur cette réforme, fait du Thatcher. There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. C'est nous qui avons raison. Il faut faire cette réforme, etc. D'où le clin d'œil à Margaret Thatcher. Je vois un très gentil message d'Azornet, qui est adorable. Je suis nouveau sur cette chaîne. Eh bien, bienvenue déjà. Vous m'inspirez beaucoup. C'est gentil, c'est pas mérité, mais c'est gentil. Merci pour ce que vous faites. Je suis en réorientation professionnelle. Auriez-vous un conseil pour garder mes objectifs en tête et tenir le coup quand on a à 35 ans ce genre de projet? Bah déjà, à 35 ans, trouver l'énergie de se réorienter, avoir le courage de changer de voie professionnelle, déjà, je salue ça, je trouve ça très très bien. Ça veut dire que tu prends ton destin en main, je trouve ça formidable. Un conseil pour garder mes objectifs en tête? Je me dis que si au fond de toi tu penses, tu sens que c'est la bonne solution, la bonne direction, le bon choix, c'est que c'est le cas. Je crois qu'on a une petite musique intérieure, je crois qu'on ne s'écoute pas assez. Soit, voilà, dans ses orientations, dans ses choix, dans ses directions professionnelles ou autres, même amoureuses, et que parfois il faut s'écouter, il faut écouter la petite musique intérieure qu'on a en soi. Une fois qu'on a réussi à entendre cette musique, et donc avoir trouvé le chemin qui correspond à sa personnalité, ses aspirations, qui on est devenu, etc., ses qualités, ses défauts, bah après il faut bosser. Après il faut nourrir la bête, il faut donner de l'énergie, de l'application, de l'engagement, voilà. Parce que c'est pas tout d'avoir trouvé plus ou moins sa voie, ce qui est déjà pas mal, parce qu'il y a des gens qui ne trouvent jamais, parce qu'ils ne cherchent pas assez ou par manque de chance. Et puis après, bien sûr, il faut nourrir ce projet. Là, il n'y a pas de secret, il faut donner du temps, du travail, de la passion aussi. Après, quand on a vraiment bien trouvé sa voie, ce qui est intéressant, c'est que ça ne va pas beaucoup coûter. Ça ne va pas beaucoup coûter parce que si tu as vraiment choisi une voie qui te correspond, il va y avoir du plaisir. Et le plaisir, c'est important. Et je crois qu'on ne recherche pas assez la notion de plaisir en France dans le travail. Le travail, c'est parfois considéré comme quelque chose de pas forcément agréable. Et quand il y a du plaisir dans le travail, eh bien, tout ce que tu vas engager en termes de temps, d'énergie, d'application, eh bien, va te coûter, évidemment, ce que je dis est une évidence, mais beaucoup moins que si c'était ultra chiant. Et du coup, tu vas finir par bosser beaucoup, quasiment sans t'en rendre compte, et le succès sera au rendez-vous. Voilà, c'est ma petite philosophie à moi. Ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, c'est la méthode que moi j'applique depuis très longtemps. C'est vrai que je travaille un petit peu beaucoup, mais comme tout ce que je fais est juste génial à mes yeux, correspond à la personne que je suis, ça ne me coûte pas tant que ça. Bon, pardon pour cette petite parenthèse, j'espère que j'ai répondu à peu près à cette interrogation. Donc, on lira l'UMA qui est vent debout contre cette réforme, on l'opposera justement à l'opposition. L'humanité qui, comme la plupart des gens opposés à cette réforme, disent il y a une autre voie. Il y a une autre façon de mener cette réforme des retraites, plutôt que par l'allongement de la durée du travail. Vous me direz ce que vous en pensez. À son aide, tu ne me déranges pas. Merci pour ton petit message. Je remercie Didoun Braise aussi pour ce très gentil 12e mois d'abonnement et ce message. Quick Quick 222. Ah, les pseudos sont un tel mystère pour moi. D'où vient ce pseudo? Merci pour ce 17e mois. Sabel Rio, merci pour ce 6e mois. Et à l'instant, ce voyageur, merci pour les bits. Oh, et Mme Michu, et là aussi, merci pour cet abonnement que tu viens de prendre à l'instant. Les échos. Pourquoi je vous ai mis les échos de côté? Bon, bah pas pour la une, hein. Retraite, les derniers arbitrages, c'est juste l'info du jour, effectivement. On va enfin savoir. 17h30, conférence de presse de la Première Ministre, qui sera l'invité du JT de 20h de France 2. Je fais un peu la promotion du service public, qui sera aussi l'invité de France Info, la chaîne sur laquelle j'ai le bonheur de travailler, donc la chaîne de Télé France Info, à partir de 20h30, Elisabeth Borne, notre invitée. On est en édition spéciale à partir de 16h. Donc c'est pas pour cette actualité que j'ai choisi les échos, c'est pour ce papier page 10. Alors c'est intéressant parce que les échos, c'est plutôt un journal en termes de philosophie, éditorialement plutôt libéral, hein, avec un regard libéral sur l'économie, eh bien, les échos, on y trouve ce matin une chronique de Jean-Marc Vittori, qui est éditorialiste aux échos, et qui dit, bah, il y a peut-être une autre solution. Il y a peut-être une autre solution que de faire travailler les Français plus longtemps pour sauver le système de retraite. Alors là, la proposition que fait Jean-Marc Vittori, c'est, et si on baissait plutôt les pensions de retraite? Si on baissait les pensions de retraite? Alors, il est marrant, Vittori, parce qu'il dit, je crois que c'est encore moins populaire que de travailler plus longtemps. Quand on demande dans les sondages, les enquêtes d'opinion, est-ce que vous voulez pas qu'on baisse un petit peu les pensions de retraite pour sauver le système? Les Français, je crois qu'ils sont encore plus nombreux pour dire, ah ben non. Et Vittori dit, et pourtant ce serait peut-être la bonne solution. Et puis il rajoute quelque chose d'intéressant, il dit, pas forcément baisser les retraites de tout le monde d'ailleurs. Hein? Il faudrait notamment épargner évidemment les foyers, les citoyens les plus modestes et les plus petites retraites. Mais du côté de ceux qui ont des retraites un peu plus confortables, peut-être qu'il faudrait un peu la baisser. C'est intéressant, je vous ai mis ça de côté dans les échos, toujours pour nourrir notre réflexion. Alors, il n'y a pas que la réforme des retraites dans vos journaux, il y a aussi un retour sur ce qui s'est passé au Brésil. Alors, je suis content parce qu'hier, je vous ai lu un article dans Le Parisien sur les événements au Brésil. Hein, ces partisans de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui ont envahi des bâtiments du pouvoir pour protester contre le résultat d'une élection démocratique, hein, l'élection du président Lula. Hein. Et puis on était un petit peu sur le factuel hier, on manquait peut-être un petit peu d'analyse, et je vous ai dit, bon, les journaux n'ont pas eu le temps encore de se pencher sur ces événements, et peut-être que demain, donc aujourd'hui, on aura des articles un petit peu sur le fond, sur ce qui s'est passé au Brésil. Et bien, bingo, dans Libération et dans La Croix, on a effectivement des analyses de ce qui s'est passé au Brésil. Je vais un petit peu vite parce qu'on est dans le sommaire, bien sûr, je dis ça pour ceux qui sont là pour la première fois. Brésil, démocratie fragile, avec toujours la comparaison avec ce qui s'est passé aux États-Unis. 2 ans après l'attaque du Capitole par les partisans de Donald Trump, l'assaut des bolsonaristes, partisans de Bolsonaro, dimanche, sonne comme un nouvel avertissement pour la démocratie brésilienne, pour la démocratie tout court, dit aussi La Croix, regardez. Je remercie Arnaud 39212 à l'instant pour ce et cet impressionnant 17e mois d'abonnement. Voilà, j'ai du mal à parler. Voilà ce que c'est de passer dormir. 17e mois d'abonnement et merci Zerdex pour ce Prime. Je vous lis sur les retraites, hein, mais comme je suis dans le sommaire, je ne lis pas tous les commentaires, on prendra un peu plus le temps tout à l'heure. Et donc La Croix pose finalement le même regard que Libération sur ce qui s'est passé au Brésil, la démocratie mise à l'épreuve, et un président Lula qui apparaît comme fragilisé. Voilà. Hop. Et puis on finira par quelque chose de super léger, de super sympa, de super frais, j'ai envie de dire. Hein. Non, pas du tout. La suite du feuilleton de Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, hein, qui est plus que dans la tourmente, qui est sur la sellette. Est-ce qu'il va pouvoir tenir à la tête de la FFF? Va-t-il être débarqué après plein de choses? Le dernier épisode, ce sont les propos qu'il a tenus contre Zinedine Zidane, mais... Il est aussi sous le coup, j'ai envie de dire, peut-être surtout d'une enquête pour harcèlement. Il est critiqué pour ses dérapages sur la question du racisme, sur la question de l'homophobie aussi. La question intéressante que pose le Parisien, c'est « Ok, bon, 81 ans, il semble avoir fait son temps, il dit pas mal de bêtises, le monsieur. Il est critiqué de partout, par le gouvernement, par l'opposition, par le monde du football, enfin, par Mbappé, etc., etc., etc. Donc il est peut-être temps de passer la main. » Qui peut le débarquer? Ah, c'est intéressant. Hein. Une fois qu'on a posé qu'on a fait ce constat que peut-être que ce serait une bonne idée qu'il passe la main. Qui peut le débarquer? Eh oui, parce que c'est une question essentielle. Et on verra que, eh bien, en découvrant la réponse à cette question, on va peut-être se dire qu'il va peut-être pas être débarqué comme ça tout de suite. Hein. En gros, quel est le pouvoir? Quelles sont les instances qui peuvent le débarquer? Comme le dit Chrome 63 à l'instant, bah c'est pas le ministre, c'est pas le gouvernement, c'est pas le pouvoir politique. Ha ha, hein. Je spoile pas. Il y en a qui savent. Oh, il y en a qui savent. Bravo Antox. Il y en a qui savent. Oui, c'est le comité exécutif de la FFF. C'est pas, voilà. Donc ça se fait en interne, ça. Et en interne, parfois il y a des arbitrages un petit peu qui nous échappent. Hein. C'est pas les journalistes, c'est pas les citoyens, c'est pas les politiques. Voilà. Ça, c'est en interne. Et donc, peut-être qu'il peut réussir à sauver sa peau. Voilà. Bon, voilà pour l'actualité. Vous le voyez, il y a 3 grosses infos. Ce matin, la réforme des retraites, ce qui s'est passé au Brésil et l'affaire Noël Le Graët. Voilà, j'ai bien gratté la presse ce matin. Parfois, j'aime vous rajouter des petites infos sur d'autres trucs. parfois un peu plus légère en matière de tech ou numérique ou Dieu sait quoi. Là, là je n'ai pas trouvé, mais j'en trouverai pour la prochaine fois. Allez, je vous lis un petit peu, puis on va lire tout ça, puis on va en parler. On va commencer par les retraites. Hey, Samuel Etienne, me dit Pantoufle. Je me demande quel système tu utilises pour te faire appeler en libre antenne sans dévoiler ton numéro. Bon, en fait, j'appelle avec mon numéro de mon téléphone, là, et puis je me mets en numéro caché. Voilà. Et je préviens les gens que je leur envoie un petit DM. Je dis, hey, je vais t'appeler tout à l'heure. Donc, si tu vois un numéro caché, décroche, c'est moi. Bon, du coup, effectivement, le risque, c'est qu'ils tombent sur des démarcheurs téléphoniques pour leur vendre des panneaux solaires ou que sais-je encore. Voilà. voilà. Et en revanche, comme le dit Pantoufle, oui, je récupère le numéro des viewers qui veulent participer. Évidemment, je ne m'en sers pas. Je détruis les messages après. Voilà. Tout ça est, comment dire, sous le sceau de la confidentialité. Voilà. Allez, je vous lis un petit peu parce que ça a le don de me mettre de bonne humeur et on commence cette revue de presse. Merci papy pour ta réponse, me dit Pantoufle. Je ne vois pas où vous voyez un papy ici. Il n'y a qu'une personne dans cette pièce et c'est un sémillant jeune homme aux cheveux à peine grisonnants et je trouve que pour son âge, d'ailleurs, il en a encore beaucoup. Voilà. Au port altier, à la silhouette plutôt fringante. Donc, peut-être qu'un papy est passé dans mon dos sur le balcon tout à l'heure, mais là, je ne vois personne qui répond à cette comparaison. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce gentil raid à l'instant ? Bankable TV. Ça me dit quelque chose. Bankable TV. C'est du trading. Plus je lis des choses sur les cryptos, moins je comprends. Voilà. Merci pour ce raid en tout cas à l'instant. Merci à toi. Tchac. Tchac. Vous, je sais pas. Moi, j'essaie de. Plus je lis des choses et moins je comprends. Et pourtant, j'en ai lu des choses sur les cryptos. Il faudrait que je passe un petit peu de temps sur ta chaîne, peut-être. En tout cas, un grand merci pour ce raid. C'est adorable. Allez, lisons quelques messages encore et puis on démarre cette revue de presse. Hurle ciel. Oh, quel joli pseudo. Bonjour Sam, merci pour ta bonne humeur. C'est vous qui m'inspire cette bonne humeur, hein. Je n'y suis pour rien. Elle m'inspire en tant qu'étudiant en école de journalisme, je m'applique malgré moi dans ce que je fais, ce qui me vaut des problèmes de ton. Ah, c'est intéressant. Ah, ok. Le message d'Hurle ciel est intéressant. Merci pour ta bonne humeur. Elle m'inspire en tant qu'étudiant en école de journalisme. Je l'applique malgré moi dans ce que je fais, donc cette bonne humeur, ce qui me vaut des problèmes de ton selon mes intervenants. Comment fais-tu pour trouver le juste ton tout en gardant ta patte souriante ? Ça, c'est très compliqué. Alors ça, c'est une question quand j'ai commencé dans ce métier qui était une question qui était centrale pour moi. Quand j'ai compris assez tôt que j'allais plutôt faire de la radio, c'était plutôt la radio qui m'intéressait à l'époque, voire de la télé plutôt que de la presse écrite, donc que la question de la voix, du ton était essentielle, bien sûr. Alors au début, quand on a 24, 25 ans, quand on débute dans ce métier, qu'on se destine à la radio ou à la télé, ben, finalement, on se dit, ben, alors quel ton, quelle voix, hein, puisque il faut trouver le ton qui va bien, le ton qui va bien à un média, à une certaine heure. Je crois qu'on ne parle pas aux gens, c'est un truc que j'ai appris au fur et à mesure, mais tu parles pas aux gens de la même façon à 7h le matin ou à 22h le soir. C'est pas le même ton, c'est pas la même énergie, voilà. Et puis quelle voix également utiliser, hein. On dit qu'il faut poser sa voix, voilà. Alors il y a tout un aspect technique là-dessus, et à un moment, ce qui est difficile, c'est de faire la synthèse entre les techniques pour parler dans un micro, pour parler à la radio, parler à la télévision, pour poser sa voix, pour affirmer une forme de présence, pas trop chanter, comme on dit, quand la voix chante trop, on a une voix qui est plus posée que dans la vie normale, où la voix module plus. Et donc, trouver la synthèse entre ces techniques-là et le naturel de sa propre voix. Alors moi, ça m'a pris très longtemps pour trouver, en fait, cette synthèse entre la voix médiatique que je m'étais créée, hein, une voix un peu particulière pour créer plus de présence, et ma voix naturelle, voilà. Et ça s'est mis en place au fur et à mesure, et aujourd'hui il y a sans doute moins de différence entre ma voix du quotidien et ma voix d'antenne qui est celle que j'utilise à la télé ou que je peux utiliser ici, quoi. Après, il y a des gens qui trouvent ça comme ça. Quand j'étais jeune, il y avait des gens de qui avaient 25 ans et qui avaient une voix parfaite à l'antenne tout de suite, naturellement, ou parce qu'ils avaient compris les choses. Moi, ça m'a pris un petit peu de temps, quoi. Voilà. Et après, c'est très subjectif aussi, puisqu'il y a des gens qui... Il y a des gens qui aiment certaines voix, qui n'en aiment pas d'autres, bien sûr. Moi, par exemple, j'avais un prof de radio en école de journalisme qui aimait pas ce que je faisais, qui me mettait des notes toutes pourrites, alors que mes confrères de la classe trouvaient que j'étais plutôt à l'aise. Voilà, donc c'est très subjectif. Voilà. Bon, en vrai, il était pas très très bon, ce prof. Pardon. J'ai vu qu'il y avait mon ami Martin, notre DJ préféré, qui était de passage. Salut Martin. J'espère... Oh, tu prends un 11e mois d'abonnement. Merci pour ton sub, c'est adorable. J'espère que tu vas bien. Ma mère, pas la mienne, mais le pseudo dans le chat vient de prendre un 15e mois d'abonnement. Merci. Ainsi que Sugar, non pas Sugar Baby, mais Sugar047 qui vient de prendre un Prime. Et Arnaud, avec un joli H, un 17e mois d'abonnement. Et un autre Arnaud juste en dessous, c'est très drôle. Pour un 17e mois d'abonnement, c'est drôle. Les Arnaud, vous suivez dans mon fil. Merci Zerdex pour ce Prime. Merci beaucoup. Bon, on va lire tout ça alors. Hein, on va lire tout ça. Oui, j'ai dit pourrite. Oui. C'est le féminin de pourri, c'est dans ma tête à moi, c'est pourrite. Une voix pourrite. Voilà. C'est une faute, hein, évidemment. Merci Gazrax, j'espère que je prononce bien pour ton prime. Ma mère m'a engueulé 20 fois dans ma vie à cause de la faute pourrite, me dit Ounce. Alors c'est une faute que je fais volontairement, je trouve que c'est un très joli mot, pourrite. Hein, une blague pourrite, par exemple. J'adore ce mot. Voilà. Il y a... Maleficat qui dit mais pourquoi les écoles de radio forcent à adopter une voix totalement neutre et impersonnelle? Il y a deux choses. Il y a effectivement quelque chose qui varie selon les époques d'ailleurs. Si vous écoutez les journaux, je sais pas, du temps de l'ORTF, c'est très très drôle parce que vous avez des voix de commentateurs d'infos qui chantent énormément, qui sont très déclamatives, très 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 très, très drôles. En fait, et des tics de langage selon les époques. Voilà. À une époque, je ne sais pas si c'est encore vrai, par exemple, mais quand vous écoutiez l'info sur M6, voilà, je ne sais pas si c'est toujours vrai, vous aviez vraiment une musique M6 qui était très drôle. C'était toujours la même musique, un peu très très formatée, très marketée. Peut-être que ça a changé, je ne sais pas. Donc c'est des modes comme ça, etc. Et donc dans les écoles de journalisme, qui sont des moules, hein, forcément, puisque tous les élèves suivent à peu près les mêmes cours, eh bien vous avez parfois des enseignements qui poussent les apprentis, les jeunes journalistes, les futurs journalistes à parler d'une telle façon, de s'exprimer d'une telle façon, ce qui correspond plus ou moins d'ailleurs à, on va dire, la façon dont parlent les journalistes de l'audiovisuel à un moment donné, une époque donnée, dans un pays donné, quoi. Donc il y a des cours en ce sens, un cours quelque part c'est un moule dans lequel on se glisse ou on se glisse pas, et puis parfois c'est les élèves eux-mêmes qui, comment dire, pour s'intégrer quelque part dans un milieu professionnel, et bien consciemment ou inconsciemment vont adopter des façons de parler qui correspondent au milieu qu'ils veulent intégrer, hein, celui des rédactions des différents médias. Donc tout le monde se copie un petit peu et ça finit par créer une espèce d'homogénéité un peu bizarre d'ailleurs, où vous avez des générations entières de gens qui parlent de la même façon. Voilà. Tout ça est un petit peu artificiel et change selon les lieux et selon les époques, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de passer par cette phase qui est quasiment un peu obligatoire, surtout quand on est jeune, qu'on cherche un petit peu à s'intégrer. Voilà. C'est compliqué à 25 ans de réinventer totalement le journalisme et d'imposer sa patte. Mais en revanche, au fil du temps, de l'expérience et de l'âge, et bien justement, tu vas trouver ta voix, et notamment dans la façon, quand tu es un journaliste de l'audiovisuel, dont tu parles, en fait. Voilà. Et c'est là que tu as des pattes différentes, des styles différents, et que tu vas pouvoir apprécier plus ou moins certains journalistes à la façon dont ils ont de raconter l'actualité, quoi. Voilà. C'est un travail que je trouve assez intéressant. Une fleur des champs sauvages, merci pour le gentil message. Et le quatrième mois d'abonnement. Bon, allez, j'arrête de vous raconter ma vie. Et maintenant, je vais vous lire les journaux. Donc, on y va? Ça vous va? On fait ça? On fait ça? On fait ça? Let's go! Oh! J'attends votre go, hein. Si j'ai pas de go, j'y vais pas. Go? Allez, lisons au taf. Excellent. Ok, Yop Fraise m'a donné le go, c'est parti. Allumage de la caméra zénitale avec un Z, sinon on part sur autre chose. Alors, on se pose plein de questions sur cette réforme des retraites dont les contours vont être précisés à 17h30 tout à l'heure par la première ministre lors d'une conférence de presse. Et une chose qu'on sait, c'est que les sondages nous disent que les Français n'en veulent pas de cette réforme des retraites. C'est la réforme qui déboussole les Français. Nous dit ce matin l'opinion. Elisabeth Borne, bon ça c'est l'actu, hein, entourée des ministres Bruno Le Maire, Olivier Dussopt et Stanislas Guérini, présente donc tout à l'heure en fin d'après-midi la réforme des retraites imaginée par l'exécutif. Ce que nous dit l'opinion et que je trouve intéressant, c'est que cette version 2023 de la réforme des retraites, il y en a eu d'autres des réformes des retraites dans le passé, suscite le même niveau d'opposition que les précédents. Ça je l'avais lu nulle part ces derniers jours. Toutes les enquêtes d'opinion convergent aujourd'hui vers le refus de ce report de l'âge légal de départ à la retraite, puisque c'est ce qui devrait être annoncé tout à l'heure, à minima à 64 ans. Les Français sont ouverts au principe même de réformer, mais ils ne sont pas d'accord sur la façon d'y arriver. Le niveau d'opposition, nous dit l'opinion, et ça c'est intéressant, le niveau d'opposition n'est pourtant pas supérieur à celui mesuré en amont des précédentes réformes des retraites, Juppé 95, réforme des retraites, merci Sacadal pour le troisième mois, c'est adorable. Wörth 2010, réforme des retraites. Projet avorté de système universel 2019, ça c'était le président Macron, c'est cette réforme qui n'a jamais été faite. Voilà. Donc en fait, l'opinion nous rappelle qu'en fait, à chaque réforme des retraites précédente, qu'elle soit passée ou pas, en fait, les Français étaient contre. Okay. À chaque tentative, en gros, grosso modo, deux tiers des Français affichent leur opposition à la copie de l'exécutif. C'est à peu près ce qu'on retrouve dans les sondages aujourd'hui. Hop! Donc, j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil. Il y a Pygmé qui écrit dans le chat, quoi ? Les Français ne veulent pas travailler plus ? J'avoue que moi, j'ai pas envie de travailler non plus trop longtemps, mais bon. Le contexte de 2023 comporte toutefois une différence de taille, nous dit l'opinion. Ou plutôt Bernard Sananès, qui est le président des Labs. Bernard Sananès qui dit, la société française est dans un moment particulier, en cas d'opposition forte, cette réforme pourrait être l'étincelle qui réveille et cristallise la colère sociale. Ce serait la retraite en plus de tout le reste. Les peurs multiples actuelles des Français, le Covid, la guerre en Ukraine, la hausse des prix, l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat. Ajouté à la colère provoquée par cette réforme, eh bien, pourrait peut-être provoquer quelque chose, un embrasement généralisé. C'est un petit peu la nouveauté par rapport aux situations précédentes. 79% des Français interrogés par l'IFOP, par exemple, s'attendent à une explosion sociale dans les prochains mois. Peur du présent, inquiétude pour l'avenir, le cocktail est explosif, estime l'opinion. Mais il y a d'autres émotions dans ce tableau impressionniste de ce que pensent les Français aujourd'hui. La résignation. Les Français sont un peu en colère, mais ils sont aussi un peu résignés. L'indifférence, la lassitude. Qui sont des mots plus cités que la colère, par exemple, dans cette étude des Labs. Cette flemme de sortir chez soi touche particulièrement les tranches d'âge intermédiaire, 52% des 25-34 ans, 53% des 35-49 ans. La question que pose l'opinion, et la question que tout le monde se pose d'ailleurs, c'est les Français sont-ils prêts aujourd'hui à quitter leur canapé pour marcher sous la pluie et perdre une journée de salaire ? Pour le gouvernement, cette lassitude est une bonne nouvelle, hein, a priori pas de colère populaire à redouter, mais aussi une mauvaise. C'est ce que dit Frédéric Dabi, qui est directeur général de l'IFOP. Le niveau de révolte est certes moins élevé qu'au déclenchement de la crise des Gilets jaunes, par exemple, mais à l'époque, les urnes pouvaient faire figure d'exutoire, puisqu'au moment des Gilets jaunes, il y avait des élections qui se profilaient. Là, nous sommes dans un désert électoral, donc pas d'endroit pour exprimer sa colère ou sa volonté de changement avant un petit moment, puisque le prochain scrutin, c'est les européennes, et c'est en 2024. Donc, voilà. La question que vous avez compris et autour de laquelle tourne l'opinion, c'est certes, les Français ne veulent pas cette réforme des retraites, mais est-ce que ça va se traduire par un mouvement de protestation, un mouvement de colère dans la rue qui, selon sa force, sa violence, sa durée, pourrait ou non faire reculer l'exécutif. Voilà, bon, ça c'est Je n'ai pas de boule de cristal. Reste à voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Je crois que les syndicats se réunissent dès ce soir pour justement discuter des modes d'action pour dénoncer cette réforme. Voilà pour l'opinion. Je prends le Figaro, qui est partisan de cette réforme des retraites. C'est ça qui est intéressant. Mais d'abord, je vous lis un petit peu. Penses-tu, me dit Setoc, qu'on s'éloigne d'une dissolution de l'Assemblée? Question difficile. Ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, le camp Macron aurait obtenu des députés LR qu'il vote avec la majorité cette réforme des retraites. Donc, il pourrait ne pas y avoir besoin du 49-3. Et c'est, pour le président Macron, c'est un petit peu sa réforme, la réforme la plus importante de ce deuxième quinquennat. Donc oui. Pour répondre à ta question, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la perspective d'une dissolution de l'Assemblée s'éloigne un petit peu, mais on verra ce qui se passe dans les prochaines semaines, les prochains mois. Achernard écrit « Bah oui, on a un système en déficit aujourd'hui, c'est le système des retraites. » Alors, il n'est pas en déficit aujourd'hui. Aujourd'hui, il est bénéficiaire, il est excédentaire, mais il va l'être dans quelques années, effectivement. Donc, je corrige ton propos, on va avoir un système en déficit bientôt. Quoi que tu complètes, et je vois ce que tu veux dire, les déficits sont comblés discrètement par plus d'impôts. C'est pas tout à fait faux ce que tu dis, effectivement. Ouais. C'est vrai que l'État met au bout. Aujourd'hui déjà, c'est pas faux. Les Français, donc, n'ont pas l'impression de payer cher pour rien, alors ils sont contre une réforme, sauf que l'argent ne tombe pas du ciel. Alpha Femto, salut, pense que la réforme va faire bouger beaucoup de monde dans les rues pour manifester, on verra. Moi, je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Ryusho, bonjour Samuel, je voudrais savoir ta routine pour te lever à 2h du matin avec la pêche. Ma routine elle est très simple, le réveil sonne à 2h. Je l'éteins très très vite pour pas réveiller mon amoureuse. En général il sonne une seconde, deux secondes quoi. J'ai toujours le stress de réveiller Hélène. Donc je le coupe très très vite. Je m'assois sur le bord du lit et là je me dis pourquoi. Je me dis c'est pourquoi. Nous ne sommes pas faits pour nous lever à 2h du matin. Nous ne sommes pas faits pour aller au travail au milieu de la nuit. Nous ne sommes pas faits pour dormir 3 heures ou 4 heures quand tout va bien. Alors je m'assois sur mon lit et je dis tous les matins, je me dis pourquoi. Pourquoi. Et vraiment, je doute. Je me dis, mais est-ce que tout ça a un sens? Et puis, je songe à la chouette équipe que je vais retrouver à France Info. Je songe à ce métier que j'adore et que j'ai la chance de faire, dans de bonnes conditions, autour d'un projet éditorial que je valide. Je sais que je vais passer un bon moment avec les gens avec qui je vais travailler. Je sais que je vais lire les journaux aussi et que ça va me servir pour faire une petite revue de presse pour vous avec Twitch. Donc je me projette vers du plaisir, vers des trucs sympas. Et puis je pense très fort aussi à ce moment-là à mon banquier, à qui je dois énormément d'argent voilà, pour pouvoir avoir acheté l'appartement dans lequel je vis aujourd'hui. Et là, je pense aux sommes gigantesques que je lui dois. Et là, je me lève. Je sais pourquoi je me lève. Et là, je vais chercher un café. Et je me dis, ben voilà, maintenant, tu te lèves. Voilà, voilà ma routine, ma super routine pour me lever tous les matins. C'est vrai, hein, c'est vrai. Personne n'est fait pour se lever à 2h du matin. Si, une fois, deux fois, pour rigoler comme ça, mais pas pendant des années, comme ça, c'est pas possible. C'est un petit peu violent quand même, c'est un petit peu violent. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Ah, il y a Richaud qui écrit, je fais ses horaires aussi depuis quelques temps récemment, et j'ai les mêmes questions existentielles, merci. Bah voilà, on en est là. Maman Unicorn écrit, je me suis posé cette question ces dernières années en tant qu'infirmière, et maintenant, eh bien je suis peintre. Voilà. À un moment, parfois, il faut changer son système. Ouais. Alors, hier c'est ce qui m'a manqué. Hier je me suis dit, bon alors ok, une majorité des Français est contre cette réforme, une majorité d'entre vous êtes contre cette réforme, la gauche est contre cette réforme, une partie de la droite est contre cette réforme, certains au sein de la Macronie s'interrogent peut-être, l'extrême droite, le RN est contre cette réforme, bon bref, vous avez beaucoup de monde. Et à un moment, moi j'ai envie aussi de lire ce que pensent les partisans de cette réforme. Merveilleux, merveilleux. Le Figaro est pour. Alors, allons frotter notre petite cervelle aux arguments du Figaro pour voir ce que pensent les partisans de cette réforme. Et puis remercions aussi l'UEA pour ce 14e mois d'abonnement et Solbur pour ce 16e mois d'abonnement. Retraite, Borne se lance, LR prêt à soutenir la réforme. Bon, ça c'est l'actu et on va lire deux choses. Un article sur les arguments pour cette réforme et un édito qui dit la même chose, signé Gaëtan de Capelle. Ce qui est fait ne sera plus à faire, vous le voyez, c'est le titre de cet édito. Je lis. Enfin, nous y sommes. Après 4 ans de consultations et de concertations, de projets systémiques et paramétriques, de souffle chaud et froid, de salto avant et arrière, ponctués d'un premier faux départ pour cause de Covid, nous voici à nouveau au pied de la montagne des retraites. On pourrait épiloguer longtemps sur les incessants changements de pied présidentiel qui ont fini par semer le doute sur la nécessité d'une telle réforme, aujourd'hui rejetée par l'opinion. Elle ne se discute pourtant pas. Hein, pour le Figaro, il n'y a pas lieu à discuter cette réforme. Ah bon ? Ok, lisons. Les projections financières du système actuel nous promettent 25 ans de déficit pour un total de 600 à 900 milliards d'euros. Donc en fait, le Figaro a pris les projections, notamment du corps, de déficit année après année à partir de 2025, en gros, et a fait une grosse addition et donc arrive à ce chiffre, 600 à 900 milliards d'euros, et écrit « La chorale des autruches prétend que cela n'a pas beaucoup d'importance, que plaie d'argent n'est pas mortelle et que tout ceci se rétablira naturellement par la grâce de la croissance retrouvée et du plein emploi. » Croissance retrouvée, plein emploi, plein de cotisations, et finalement, il n'y a pas besoin de cette réforme. Cette lecture dans le marc de café, ils sont moqueurs, en Figaro, ils sont moqueurs. Ils résistent mal à une réalité démographique incontournable avec l'allongement de la durée de vie, la charge financière d'un retraité pèsera bientôt sur les épaules de seulement 1,5 actif contre 4 en 1980. Bon, ça c'est un chiffre qui n'est pas contestable, c'est vrai que au début des années 80, il y avait 4 actifs pour financer la retraite d'un retraité. Aujourd'hui, on a 1,5 actifs. C'est vrai que mathématiquement, ça pose un petit problème. Il n'est donc plus temps de chipoter si on souhaite préserver notre modèle par répartition, plus temps de tergiverser non plus si on souhaite sauver le peu de crédibilité qui nous reste en Europe où tous les pays ont fixé l'âge de départ à 65 ans au plus. Ce seuil de 65 ans est au passage celui qui avait été retenu par le Conseil national de la Résistance, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avant que François Mitterrand commette la faute impardonnable, selon le Figaro, de la retraite à 60 ans. 4 décennies plus tard, nous avons à peine remonté la moitié du chemin. La réforme à venir ne brille certes pas par une immense ambition, mais ce qui est fait ne sera plus à faire. Voilà pour cet édito du Figaro qui dit « On doit faire cette réforme ». Et vous, vous en pensez quoi ? Ah ah, bah oui, Montargis, et depuis les années 80, on a multiplié notre productivité par combien ? Ouais, remarque intéressante. Décadragme, ne devrait-on pas s'inquiéter plutôt de la crise économique et, pardon, écologique et climatique plutôt que de travailler 1 ou 2 ans de plus ? On peut faire les deux, on peut faire les deux. Zanonox est plutôt d'accord avec l'analyse du Figaro. Les Français jouent les autruches, effectivement. Pau 22 écrit, tout sujet est à discuter, c'est la base de la démocratie. Je suis d'accord. Lucien écrit « J'aurais pas prédit que j'allais frotter ma cervelle au Figaro ce matin. » Ah ben, c'est l'intérêt de cette revue de presse. Nico Loco, merci pour le 2e mois d'abonnement à l'instant. Ouh là là, Pau, t'es chaud, hein. Tu vas me tuer. Pau écrit, je sais que c'est un sujet complexe, mais pour un novice comme moi, serait-il possible de résumer rapidement le système de retraite actuel et les propositions de changement ? Ouh là là ! Le problème, c'est que dans tout résumé, forcément, il y a des approximations. Alors, je te la fais super court. Vous êtes prêts ? La réforme des retraites, résumée par Samuel Etienne en une minute. En France, on a un système de retraite qui est plutôt généreux et ambitieux, qui a été voulu après la libération après la Seconde Guerre mondiale, qui est un système par répartition. C'est-à-dire que quand tu cotises en tant que salarié, tu ne cotises pas pour ta retraite, tu cotises pour les gens qui sont à la retraite. C'est une forme assez belle, d'ailleurs, de solidarité entre les générations. C'est la réforme des... C'est notre système de retraite. Bon, alors, il se trouve que la pyramide des âges étant ce qu'elle est en France, aujourd'hui, il y a... Bon, ça, c'est pas trop contestable. moins d'actifs qu'avant pour financer les gens qui sont actuellement à la retraite. D'autant que vous avez les générations du baby boom, qui sont des générations importantes, qui sont en train d'arriver à la retraite. Voilà. Bon. Après, tout ça peut être corrigé par les gains de productivité, tout ça qu'on évoquait, mais je fais simple. Donc, certains disent que, selon les prévisions du COR, le Conseil d'orientation des retraites, même si aujourd'hui le système est globalement excédentaire, il va devenir déficitaire dans pas longtemps, à partir de 2025, pendant quelques années, et que le cumul de tout ça va faire peser un poids budgétaire financier sur la collectivité qui est trop important. Ça, c'est l'analyse des partisans de cette réforme, vous l'avez compris. Voilà. Donc, il faut faire quelque chose. Alors, le problème, c'est quel est ce quelque chose ? Il y a plusieurs leviers. Dépenses-recettes. Au niveau des recettes, est-ce qu'on augmente les cotisations retraite des salariés par salarial ou par patronal ? Bon, ça, c'est des choses qui ont déjà été faites dans le passé, ça. On peut augmenter les cotisations. Du côté du gouvernement, qui est dans une doxa, un corpus idéologique où le président Macron dit « je ne veux pas augmenter les impôts, les Français paient trop d'impôts », une hausse des cotisations, c'est plutôt non. Et puis, on dit « oui, mais ça enlève du pouvoir d'achat aux Français », etc. Bref. Donc, hausse des cotisations. Ça peut être aussi... Si on n'augmente pas les cotisations, ça peut être aussi baisser les pensions de retraite, moins de dépenses. Ça, c'est un truc qu'on lira dans les échos tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui dit, voilà, il y a une solution, c'est d'être un peu moins généreux au niveau des retraites. Autre solution, mais c'est celle que prône le gouvernement, si on n'augmente pas les cotisations sociales ou si on n'augmente pas les impôts, parce qu'on peut aussi créer un impôt ou augmenter les impôts pour financer les retraites, ça c'est un choix politique, c'est un choix budgétaire, si on ne fait pas ça, la seule solution, ça c'est ce que dit le gouvernement, on va faire travailler les Français plus longtemps. Ils vont devoir travailler plus longtemps avant d'avoir droit à une retraite, notamment une retraite à taux plein. Double effet qui se coule. Si les gens travaillent plus longtemps, ils vont toucher moins longtemps leur retraite. C'est mathématique. Moins de dépenses. Et si les gens travaillent plus longtemps, à condition d'avoir un emploi, et bien sûr, et pas trop chômage, ils vont cotiser plus longtemps et ça fera aussi plus de rentrées. Donc double effet qui se coule, ça fait rentrer plein de sous, et hop, on sauve le système de retraite. Voilà, je te l'ai simplifié à mort le débat, mais grosso modo, c'est un peu ça. Voilà. Donc selon sa sensibilité politique, selon la façon dont on veut organiser le vivre ensemble, on dit... on propose différentes solutions, d'où le débat très divisé actuellement sur la question. C'est est-ce qu'on augmente les impôts pour sauver le système de retraite ? Est-ce qu'on augmente les cotisations qui sont payées par les salariés ou par les entreprises ? C'est pas la même chose, ou les deux ? Est-ce qu'on crée un impôt ? Est-ce qu'on augmente un impôt ? Est-ce qu'on taxe plus la consommation ? Est-ce qu'on baisse les pensions ? Est-ce qu'on fait travailler les Français plus longtemps ? En gros, voilà, c'est un peu les différentes solutions. On peut mixer tout ça, voilà. Le choix du gouvernement, c'est de pas mixer du tout, c'est on n'augmente pas plus les impôts, on n'augmente pas plus les cotisations, on fait travailler les gens plus longtemps, donc ils vont moins toucher de retraite, et puis ils vont plus cotiser. Voilà. Oh, merci. Il y a Pau qui dit, je n'étais pas sûr d'avoir été clair, il y a Pau qui nous a posé la question et qui vient de nous dire, c'est très clair, merci beaucoup. Moi, je suis content. Le Figaro est à fond pour cette réforme. Bon, lisons l'article du Figaro qui a quelques pages après cet édito. Il y a Beetle21 qui écrit « Samuel, je suis novice, peux-tu m'expliquer la vie en une minute, s'il te plaît ?» Bien sûr, Beetle, ce n'est pas un problème. La vie en une minute. Oh putain. Clipper, ça parce que ça va être chaud. Je vais vraiment essayer de le faire en une minute. Je vais mettre un chrono. La vie en une minute. Je mets un chrono. Ok. La vie en une minute. Le sens de la vie en une minute. Je me lance. Idéalement, je crois que le sens de la vie ultime est de naître et ensuite de s'attacher à donner plus d'amour que tu ne reçois. Voilà. Globalement, l'idée de laisser à ton petit niveau un monde un peu meilleur que celui que tu as trouvé quand tu t'en vas, voilà, par tes actions au quotidien, par ton action sur ton environnement, par l'amour que tu as pu donner à tes proches ou à des étrangers autour de toi, les efforts qui ont pu améliorer globalement le monde dans lequel on vit, si au soir de ta vie, 35 secondes, si au soir de ta vie, tu peux te dire que ta vie a à ton petit niveau, améliorer le monde dans lequel tu as vécu, voilà, par tes efforts, ton application, ton travail, l'amour que tu as dispensé, ta générosité, que sais-je, eh bien, je me dis que tu as pas trop mal réussi ta vie. 55 secondes. 56 secondes. Voilà. Bon, après, c'est qu'une définition. Hein. C'est qu'une définition. Voilà. Il peut y avoir un milliard. Mais je me dis que, voilà, cette idée, au soir de sa vie, de se dire que tu as plus fixé, arrangé, amélioré, adouci le monde que tu ne l'as abîmé, ça va. C'est que c'était plutôt pas mal. Moi, je me dis que ça. Voilà. Une définition parmi tant d'autres. Ça vaut ce que ça vaut. Pourquoi cette nouvelle réforme des retraites est indispensable? Tiens donc, nous dit Le Figaro. Travailler davantage est un impératif économique et une nécessité démographique. Certains syndicats et partis de gauche, écrit Le Figaro, ont pu laisser croire aux Français que cette réforme serait inutile. Elle est au contraire indispensable, à la fois par impératif économique et par nécessité démographique. Sans réforme, c'est la faillite, dit Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. C'est en tout cas, estime le journal, un passage obligé pour sauver le système français par répartition héritée de 1945, je vous en parlais, où les actifs paient les pensions des retraités et ne cotisent pas pour eux-mêmes, contrairement au système par capitalisation adopté par d'autres pays. C'est exactement ce que je vous disais. La trajectoire financière montre en effet que le système tricolore sera dans le rouge au cours des 25 prochaines années, quelles que soient les conventions de calcul et hypothèses retenues. Ne pas réformer reviendrait à laisser la bombe à retardement d'une dette encore accrue aux générations futures. Ne rien faire empêchera de payer des pensions décentes aux futurs retraités, sapera la confiance des jeunes dans le système. Une partie très importante de la nouvelle génération pense déjà qu'elle n'aura pas de retraite. Donc Le Figaro joue un peu sur cet argument. Or, le système de répartition ne tient que par ce lien essentiel de confiance dans la solidarité intergénérationnelle. Pour le coup, moi, je trouve que c'est quelque chose de très important. Les actifs paient les pensions de leurs parents parce qu'ils sont assurés que leurs enfants paieront pour eux. Un système par répartition doit donc, par définition, être financièrement à l'équilibre. Bon, sur cette définition, je pense que tout le monde ne peut être que d'accord. Après, c'est sûr, la manière d'arriver à cet équilibre, bien sûr que les propositions diffèrent. Cette réforme est aussi une exigence sociale, estime Le Figaro. La France est le pays d'Europe où les jeunes entrent le plus tard sur le marché du travail et où les seniors en sortent le plus tôt, une situation qui n'est pas soutenable financièrement. Obligation économique, la réforme est aussi un impératif démographique. Non seulement la génération nombreuse du baby-boom, je vous le disais tout à l'heure, arrive à l'âge de la retraite, mais les Français vivent plus longtemps. Entre 1980 et 2021, l'espérance de vie à la naissance est passée de 78 à 85 ans pour les femmes, donc ça fait plus 7, et de 70 à 79 ans pour les hommes, plus 9. Cela signifie qu'il y a plus de retraités pour un cotisant, à la fois parce qu'il y a plus de départs à la retraite, et aussi parce que l'espérance de vie et la durée de versement des pensions augmentent. Alors que la France comptait 4 actifs pour un retraité au début des années 80, le ratio est tombé à 2 actifs pour un retraité en 2005 et il sera de moins de 1,5 cotisant pour un retraité à l'horizon 2040. Pour établir la trajectoire, le gouvernement ne peut agir que sur 3 leviers, relever l'âge, okay, augmenter les cotisations, hein, ou baisser les pensions. Donc sur le constat, je pense que tout le monde peut s'accorder, mais vous voyez que c'est sur les solutions que on peut se diviser. C'est le triangle infernal des retraites. Or, il apparaît difficile de relever le taux de cotisation, bah, estime Le Figaro, qui à 28% est déjà l'un des plus élevés d'Europe. Augmenter les cotisations payées à 40% par le salarié, 60% par l'employeur, reviendrait à réduire le pouvoir d'achat des Français. Bon, ça, c'est l'analyse du gouvernement. Cela alourdirait aussi le coût du travail, ce qui réduirait la compétitivité des entreprises tricolores et ne manquerait pas de se répercuter in fine sur l'emploi. On est dans une analyse sur un plan économique libéral, hein, de ce problème. Baisser le niveau de retraite n'est pas davantage une option. Du fait de la sous-indexation des pensions sur l'inflation, le pouvoir d'achat des retraités a déjà baissé et va continuer à diminuer. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui disent qu'il faudrait plutôt baisser les pensions. Conclusion du Figaro, mais vous voyez bien que il y a une phase un petit peu de constat sur laquelle tout le monde peut s'accorder, qui est le problème de financement de notre système de retraite. Et puis après, la question des solutions. La conclusion du Figaro: la solution la moins douloureuse reste donc celle du relèvement de l'âge de départ à la retraite, en travaillant tous collectivement beaucoup quand même. Les Français peuvent créer de la richesse pour financer leur système social. Ouais. Vous voyez, en fait, c'est finalement assez clair. Hein, c'est toujours la politique. C'est la politique, c'est mon regard sur la chose, c'est comment on vit ensemble, comment on vit en société, comment on finance les trucs, voilà. Qu'est-ce qu'on finance d'ailleurs, hein, où on va chercher l'argent et comment on le... c'est pas compliqué, la politique c'est ça, c'est une question de choix, c'est où on va chercher l'argent et comment on le dépense, voilà. Et ben, et là c'est exactement ça, voilà. On a un problème qui de comment conserver un système de retraite grosso modo auquel les Français sont plutôt attachés, voilà. Et vous voyez qu'il y a plusieurs solutions. Et la politique, c'est de choisir entre ces solutions. Bon, le Figaro, par exemple, est sur la ligne du gouvernement. Il faut travailler plus longtemps. Papier signé Marie-Cécile Renaud, pour répondre à une question dans le chat. Je vous lis un petit peu, et puis on va lire une autre analyse, qui est celle de l'Humanité, hein, le journal qui est à gauche, bien sûr, pour voir une autre analyse du sujet. Alors, Camisole. Le problème du système, c'est de reporter la charge sur les générations qui arrivent. Je ne comprends pas que les futurs retraités ne pensent pas à ceux qui sont souvent leurs enfants. Donc au final, le système n'est en rien égalitaire vu que chaque nouvelle génération cotise plus longtemps et travaille plus longtemps. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Pomme estime qu'un système qui subit à chaque quinquennat une réforme est un système qui ne va pas et qu'il faut changer. Le système par répartition valide en 1945 n'est plus adapté à notre ère. C'est peut-être juste, ouais, ou peut-être juste des ajustements en fonction ben, du nombre de personnes disponibles pour cotiser et du nombre de personnes qui sont à la retraite. Il y a Mijdesh qui me fait très très peur parce qu'il écrit « Il existe d'autres solutions bien moins morales et que je ne cautionne pas, mais elles existent. » Tu me fais flipper, tu sais. Mich, qu'est-ce que tu nous racontes, nom de Dieu ? Tu me fais flipper, là. Sacadal, donc il faut faire des enfants si on veut une retraite. Oui. Oui, une certaine mesure, oui. Plus tu as de cotisants, et plus tu as de gens pour cotiser pour les gens qui sont à la retraite. Oui. C'est ce que dit Pyrex aussi. Il faut donc avoir des enfants pour que le plan fonctionne. Bah oui, oui. Enfin, oui, dans un, ah oui, bah oui, dans un système de retraite par répartition. Si tu fais plus du tout d'enfants, si un pays ne fait plus du tout d'enfants alors qu'il est dans un système de retraite par répartition, ça ne marche plus, oui. Ça, c'est une évidence. Ouais. C'est une pyramide de Ponzi. Dit Yannimage, c'est bon ça. C'est bon ça. Yannimage nous dit, finalement, en fait, notre système de retraite, c'est une pyramide de Ponzi. J'aime bien, c'est drôle ça. Merci Anadel34 pour le 9e mois d'abonnement. Merci Bayard les Vercus Secs, ça faisait longtemps, merci. Comment vas-tu ? Merci pour le 11e mois d'abonnement. Pourquoi ne pas mettre un système de décote plus important pour ceux qui souhaitent partir plus tôt, Ezekiel ? Je me demande si dans les faits, c'est pas ce qui va se passer. Je me demande si dans les faits, en augmentant le. En repoussant le départ de. L'âge de départ légal à la retraite. Il n'y a pas des gens qui vont vouloir arrêter plus tôt de toute façon parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils sont fatigués, et qui vont accepter dans les années, les décennies à venir, eh bien, de partir avec des retraites plus petites, en arbitrant, en disant moi j'en peux plus, je veux partir à la retraite, tant pis si je gagne moins, je me demande si c'est pas ce qui va se passer dans les faits. Je me demande même si c'est pas une arrière-pensée quelque part de ce projet. Allez, je lis encore un ou deux messages et je vous lis l'Humanité. Alors, sur la pyramide de Ponzi, il y a Mebinop qui précise, j'aime bien ce débat, c'est une pyramide de Ponzi suffisamment lente pour que les premiers meurent quand les nouveaux arrivent. C'est plutôt un tube infini de Ponzi. J'adore. J'adore. Ah, Gousletova reprend un petit peu quand même la réflexion du Figaro en disant le ratio cotisant-retraité est l'alpha et l'oméga du système de répartition. Ça n'est pas faux. Et pourtant, je trouve qu'il est trop absent des débats, particulièrement parce que son constat est terrible pour ceux qui ne veulent pas travailler plus. Ok. MDTHS, l'État ne peut-il pas injecter l'argent qu'il manque et le trouve ailleurs? Si, c'est ce que pensent notamment les syndicats. Voilà, en disant que. Alors, il y a une expression chez les syndicats qui est l'épaisseur du trait. Le déficit à venir sur le système de retraite est dans l'épaisseur du trait. Les syndicats disent autour de 3% des dépenses globales de retraite. 3%, ça pourrait s'assumer, on pourrait mettre au bout. Alors, l'État, quand on dit l'État, c'est la collectivité, hein, c'est nous. Voilà. Alors, l'argent, on peut le trouver quelque part. Donc, hausse des cotisations, hausse des impôts, que sais-je. Ça, c'est un des éléments de réflexion des syndicats. Salut Louinès, et bon café à toi. Oh, c'est mignon, il y a Rad60 qui dit vous laissez pas avoir, c'est une rediff. Il fait semblant de lire le chat. Ah, je kiffe. Je kiffe. Bon, en ce moment, on est très sur les retraites, donc je pourrais vous diffuser celle d'hier. Vous n'y verriez que du fait. Que du feu. Que du feu. Allez, je vous lis l'Humanité pour vous trouver un petit contrepoint à l'analyse du Figaro. Let's go pour la zénitale. Y a qu'ici qu'on dit ça, hein, let's go pour la zénitale. Hein. Retraite, le choix de la méthode Thatcher. Je vous ai expliqué rapidement ce que ça voulait nous dire, ça. Elisabeth Borne donc présente aujourd'hui le projet qui vise à reculer l'âge légal de départ à la retraite, présenté comme inéluctable. Gauche et syndicats organisent la riposte. Le choix de la méthode Thatcher, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le « there is no alternative hein, », qui est un des mots d'ordre de Margaret Thatcher, l'ancienne première ministre britannique, qui disait « bon, ma vision, ma politique économique extrêmement libérale, c'est la seule possible, c'est la seule bonne pour mon pays. There is no alternative, il n'y a pas d'alternative. L'humanité estime que le président Macron et son gouvernement et son camp tiennent à peu près le même discours en disant il n'y a pas d'alternative à cette réforme. D'où ce clin d'œil à Margaret Thatcher. L'humanité qui estime que l'exécutif et ses alliés ont déjà rodé leurs arguments frappant d'irresponsabilité et de dogmatisme toute opposition à leur réforme ou toute proposition alternative. Débat, la chose n'est pas si évidente pour la Macronie qui prétend au contraire que la réforme est incontournable et qu'il n'y a pas d'alternative selon la formule chère à Margaret Thatcher. Pour l'humanité, il s'agit pourtant d'arguments fallacieux qui font mine d'ignorer qu'il existe bien, contrairement à ce que siffle ce petit air thatchérien dès alternatives. Vous avez le gouvernement, vous avez le Figaro à l'instant qui nous disent qu'il n'y a pas d'alternative, et puis d'autres, notamment l'humanité, qui dit « ben si, on en a lu hier ». La conviction politique dont la nécessité de travailler toujours plus relève bien, elle aussi, de l'idéologie, celle qui veut que l'âge de départ et la durée de cotisation soient les seuls paramètres sur lesquels jouer en matière d'équilibre du système des retraites. Consulté, gros guillemets, mis par l'humanité, par Elisabeth Borne, les syndicats ont tout de même tenté de mettre des solutions autres sur la table, hein, sans être entendus. Par exemple, la CGT a fait valoir que la hausse des salaires, par exemple, permettrait une augmentation mécanique des cotisations. Bah oui, si tu augmentes les salaires, tu augmentes les cotisations. Donc ça, c'est la proposition de la CGT. La CGT qui estime avec FO qu'atteindre l'égalité salariale réelle entre les hommes et les femmes arriverait à peu près au même résultat aussi. Ça rapporterait 5 milliards d'euros par an. Mais la revalorisation des salaires est un des tabous, estime l'humanité, d'une Macronie qui prétend n'en avoir aucun en matière de retraite comme ailleurs. Il en va de même pour la mise à contribution du patronat. Pourquoi les salariés devraient-ils assumer seuls la charge du système? Les syndicats ont par exemple proposé à Elisabeth Borne un mix de financement avec une hausse partagée des cotisations patronales et salariales. Et ça, le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Donc, there is no alternative, disait Margaret Thatcher, dit aujourd'hui le président Macron, dit aussi le Figaro, l'humanité dit, eh ben non, c'est pas vrai du tout, il y a des alternatives. Oh! Bah oui, viens me voir.
Tu viens me voir? Viens. Attends, je peux pas te soulever parce que j'ai mal à la main. Voici Solal, deux ans et demi, qui est gentil, qui vient me voir parce qu'il a mangé, je pense. T'as mangé?
Oui.
Qu'est-ce que tu as mangé?
Des pâtes.
Des pâtes? Des pâtes à la bolognaise?
Oui.
Ou des pâtes normales?
Des pâtes à bolognaise.
Et c'est bon?
Oui.
Et qu'est-ce que tu as mangé d'autre? Est-ce que tu as mangé un dessert?
Non.
Il a le bruit là, c'est un ballon, il a un petit ballon rouge. T'as pas mangé de dessert? Si, un yaourt?
Une banane.
Une banane?
Oui.
Et tes chaussettes, elles sont où? Il faut mettre des chaussettes.
Un mauvais.
Quoi? Oui. Mais... Tu vas mettre des chaussettes?
Oui.
Demande à Rodélia les chaussettes.
Mais Eda?
Oui. Demande à Eda des chaussettes.
Mais Eda?
Oui.
Elle avait un mauvais.
Elle avait qu'une chaussette, Rodélia?
Oui.
Oh, elle est où l'autre?
Pas deux.
Eh ben, demande à Rodélia deux chaussettes. Sinon, tu vas avoir froid et tu vas être malade, d'accord?
Okay.
Et après, je pourrais venir dormir avec toi pour la sieste?
Mais papa?
Oui.
Mais Eda,
yes.
Je vais pipi.
Ok.
Eda,
deux chaussettes. Tu demandes deux chaussettes. Deux chaussettes.
Je vais fermer la porte. J'arrive.
J'arrive.
C'est le petit dernier, c'est Solal. Bon, vous avez compris évidemment que moi je fais des enfants, bien sûr, pour sauver notre système de retraite par répartition. Hein. C'est là, vous voyez, je donne de ma personne. Hein. Non, évidemment que non. Bon, on était où? Ah oui, la chaussette, oui, chaussette. Il n'y avait pas de chaussette. On est le 10 janvier, il se promène sans chaussette. Hein? Pff, et le trou de la sécu, on y pense ou quoi? Hein? C'est fou ça. Il aime bien les pâtes bolognaises. Il est en séquence pâtes bolognaises. On sait très bien que tu fais des impôts. Il y a Saïka qui on sait très bien que tu fais des enfants pour payer moins d'impôts. Oh oui, ça fait pas baisser les impôts comme ça fait baisser les impôts. Ça a été très plafonné, notamment par le président Hollande, je crois. Le quotient, c'est pas le quotient familial, je sais plus quoi là. Ça a été beaucoup baissé. Ça réduit pas tellement les impôts, les enfants. Hein. À la base, moi, je les faisais pour ça, hein, surtout. J'étais très très déçu quand j'ai vu l'impact de la naissance du premier et puis du deuxième sur ma feuille d'impôt. J'étais très très déçu. Hein, très très déçu. Donc voilà. Bon, bah maintenant, c'est lancé. Je continue, mais très très déçu. Le troisième enfant fait baisser plus d'impôts, me dit Yanis Maj. Ouais, je me suis déjà fait avoir deux fois. Hein, on me dit ça, on en fait un troisième. J'attends avec impatience la feuille d'impôt et puis on se rend compte que finalement, c'est un peu d'arnaque, quoi. Donc je ne sais pas. À partir de 4, ça vaut le coup, me dit Vati. Bah voilà, c'est ça. 4, 5, 6. Hein, ouais. C'est plafonné maintenant. Pas beaucoup d'économies. Hein. Anadael 34, merci pour le 9e mois d'abonnement. Et est-ce qu'on a lu l'humanité? Oui, on a lu l'humanité. Bon, qu'est-ce que j'ai dans les échos? Ah, une nouvelle piste proposée par les échos à l'image de la caméra zénitale. Bon, le couple de l'exécutif ici, donc on attend les annonces d'Elisabeth Borne cet après-midi, autour de 17h30. Et dans les échos, une nouvelle piste. Alors, les échos nous disent, par la plume de Jean-Marc Vittori ce matin, qui est éditorialiste pour les échos, nous disent, alors oui, il y a la piste travailler plus longtemps, il y a la piste on augmente les cotisations, hein, ou alors on augmente les impôts, hein. Et puis, les échos nous disent, il y a une autre piste. Alors, personne n'en veut, mais il faudrait peut-être l'étudier, celle-là. C'est de baisser les pensions de retraite. Baisser les pensions de retraite. Guidal, merci pour le 6e mois. Et si on baissait plutôt les pensions de retraite? Il est injuste de réformer les retraites en exonérant de tout effort les seniors, hein, qui sont en moyenne mieux lotis que les actifs. Les retraités en sueur, écrit MMG7F dans le chat. Ainsi donc le gouvernement, écrit Jean-Marc Vittori dans Les Échos ce matin, lance une nouvelle réforme des retraites, comme ses prédécesseurs en 93, 2003, 2010 et 2014. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5 réformes. Il actionne le même levier, le report de l'âge légal de la retraite, comme s'il n'y avait pas d'autre solution pour assurer le rééquilibrage de système. Mais il y a pourtant une autre piste évidente, mais une piste où aucun politique n'ose s'aventurer. Commençons par le début. N'en déplaise à quelques beaux esprits, il faut bel et bien remanier encore une fois le système des retraites en France. Bon, les échos sont sur la ligne du Figaro et du gouvernement. Si il y a un problème, il faut faire quelque chose. Ok. Avec une fécondité qui décline plus que prévu, ah, vous voyez, on ne fait pas assez d'enfants, je vous le disais, la population va moins progresser et vieillir plus vite qu'on ne l'anticipait. Il y aura donc moins d'argent demain pour payer les pensions. Dès lors, il n'y a que trois solutions, c'est assez clair. La première est le report de l'âge auquel il devient possible de prendre la retraite, donc le choix du gouvernement, en augmentant l'âge légal de départ ou le nombre d'années de cotisation. A priori, on va avoir le droit aux deux. Il y a ONR qui me dit « Comment on fait les enfants, Samuel Etienne ?» Ah ! Comment on fait les enfants ? Alors, bon, je suis aussi là pour répondre à vos questions sur la vie. Alors, comment on fait les enfants ? Alors, déjà, il y a différentes façons, différentes méthodes, différents styles, j'ai envie de dire, différentes approches, voilà. Pour donc faire des enfants. La technique que je privilégie personnellement, c'est celle, aidez-moi dans le chat, là, je ne sais pas où je vais vous emmener, c'est merci Henri, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. Tu prends, pour simplifier, il y a d'autres méthodes, tu prends deux personnes, voilà, tu mets beaucoup d'amour, tu mets dans un pot, tu secoues très 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 fort, à un moment il va se passer des choses, des frictions, des interactions, et puis voilà, 9 mois plus tard, et voilà, tes impôts baissent. Voilà, bon, en gros, voilà. Voilà, donc on reprend la lecture des échos sur la baisse des pensions de retraite, c'est parti. première solution, on fait travailler les gens plus longtemps. Hop, petit trou dans le t-shirt. Deuxième solution, relever les cotisations versées par les salariés ou par les employeurs. Ok ? C'était la solution adoptée jusqu'au début des années 2010, quand le gouvernement s'est rendu compte que ce relèvement absorbait la moitié de la hausse du pouvoir d'achat. Un dernier relèvement de 0,6 a été décidé lors de la réforme Touraine 2014, dont la hausse des cotisations, ça a déjà été un choix dans le passé. Mais ce levier de la hausse des cotisations a deux inconvénients majeurs, nous disent les échos. D'abord, il augmente les cotisations sur le travail. Or, ces cotisations sont déjà très élevées en France, ce qui pèse sur l'emploi, ce qui pèse aussi sur le pouvoir d'achat. Ensuite, il porte seulement sur celles et ceux qui ont l'âge de travailler. Hein. En gros, d'augmenter les cotisations ou de faire travailler plus longtemps les gens qui sont actuellement en situation de travailler, ben, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est les salariés qui font l'effort. Reste, roulement de tambour, la troisième solution. Une solution interdite, tant elle semble sulfureuse. Il y a pourtant d'excellentes raisons d'y penser, nous disent les échos. Et si on baissait les pensions de retraite ? Il y a de sérieux arguments pour que les retraités soient aussi mis à contribution. Il y a des retraités dans le chat ? On va baisser vos pensions. Ils conservent aujourd'hui les retraités un niveau de vie supérieur à celui de l'ensemble de la population, ce qui n'était pas le cas avant les années 2000. C'est une exception française. Ça va bien. Voilà. Cette comparaison a parfois été rejetée au motif que la population française compte davantage de chômeurs que celle des pays voisins, et donc davantage de foyers à faible revenu. Hein, c'est vrai qu'il y a des petits retraités, il y a des petites retraites, ça les échos le reconnaissent, d'où la conclusion, hein, très intéressante. Il est parfaitement possible de réduire la grande majorité des pensions tout en préservant les petites retraites. Baisser les pensions pour quasiment tout le monde, mais pas pour les plus petits. Avec cependant un sacré obstacle politique à franchir, d'autant plus que les électeurs âgés votent davantage que les autres et qu'ils votent davantage pour le parti au pouvoir. Toute réforme des retraites a un coût politique et il serait injuste que les seniors soient les seuls épargnés par le changement. Les échos nous disent qu'il faudrait aussi jouer sur ce levier, baisser les pensions de retraite, sauf pour les retraités les plus modestes, sauf que les échos nous disent pourquoi les politiciens ne vous en parlent pas, tout simplement parce que politiquement, eh bien, c'est très très risqué, parce qu'il se trouve... il se trouve que qui vote le plus en France ? Quelle est la classe d'âge qui vote le plus en France, hein ? Et quelle est la classe d'âge qui vote le moins en France ? Vous avez la réponse, vous le savez, hein ? Qui vote le plus en France ? Ce sont les... Oui, les... Enfin, oui, les vieux. Les retraités. Les seniors. Voilà. Quel homme, femme, politique, parti politique va aller dire aux seniors, hein ? Allez, on va baisser votre pension de retraite, sachant que c'est eux qui votent. Hein. Et les jeunes, voilà, qui à l'inverse, eux sont ceux qui votent le moins. Comme quoi, oui, ça sert à quelque chose de voter, de se faire entendre par les politiques notamment. Voilà. Du coup, est-ce que c'est la faute aux jeunes qui ne votent pas cette réforme ? Oui, c'est la faute des jeunes, bien sûr. Voilà. Intéressant ce que disait Zico. Tiens, on va faire un sondage. On n'a pas fait de sondage là ce matin. Gérer les sondages. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée ? Faudrait-il baisser les pensions de retraite ? Sauf pour les plus modestes, hein, pour les petites retraites. Ça, les Zico étaient assez clairs là-dessus. Faudrait-il baisser les pensions de retraite ? Est-ce que ça pourrait être une solution ? Ben, je vous demande à vous. Oui, non ? Je ne sais pas. Tiens, petit sondage. Je suis curieux de savoir ce que vous allez me dire là-dessus. Let's go. Commencez un sondage. Oh, j'ai faim, j'ai soif de café, bordel. Voilà les résultats. Alors, faut-il baisser les pensions de retraite ? Je vous laisse voter un petit peu. Petite, c'est combien ? Je sais pas, Tof Corum, les échos le disent pas. Moi, je dirais, faudrait pas toucher aux retraites de moins de 1500 euros, je dirais, moi. Hein ? Alors, ça donne quoi ? Bim, ça donne ça. Faut-il baisser les pensions de retraite ? Vous êtes... Ah, c'est très partagé. Hein. Vous êtes 45% à dire oui. Vous êtes 41% à dire non. Ce serait intéressant de savoir... Pourquoi on voit pas mon sondage, d'ailleurs ? Bah, il devrait s'afficher, là. Oh, c'est bizarre. Ah, voilà. Voilà. Ce serait intéressant de voir l'âge des votants, mais bon. On ne va pas vous poser la question, mais c'est du 50-50, hein, du 50-50. Faudrait-il baisser les pensions de retraite ? Oui, 43%, non, 41%. Non, c'est pas un petit vote générationnel, d'ailleurs, ça. Non, je dis ça, je dis rien. Je ne sais pas, 16%. Je suis en train de vous lire. Pierre X, je ne vois pas pourquoi les actifs devraient faire l'effort de bosser plus pour avoir moins de retraite sans que les retraités ne fassent pas d'efforts aussi. Ok ? Voilà, les conflits familiaux, Madeleine Inked. Ma grand-mère, ancienne institutrice directrice d'école, est partie à la retraite à 54 ans. Gagne plus que mes deux parents actifs qui ne sont pas prêts d'être à la retraite. Oh là 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 là, l'attention ! Voilà, très serré, ça s'est joué à 5 voix. Hein. Donc faut-il baisser les pensions de retraite ? Les vainqueurs, c'est le camp du non, mais à 220 voix. Et les oui, vous êtes juste derrière avec 215 voix. Extrêmement serré, intéressant. Il y a plusieurs à dire qu'il faudrait finalement un mélange de toutes ces... solution là, un petit peu de hausse de cotisation et on travaille un petit peu plus longtemps et on baisse un petit peu les pensions, comme ça chacun fait un petit effort. C'est pas inintéressant. Merci Clem, c'est faux, mais c'est très gentil. Allez, remercions ensemble tous les gentils subs de ce matin. Merci Clems, d'ailleurs 564, j'avais pas vu. Merci pour le 15e mois. Fessavo, j'espère que je prononce bien. Merci pour le 9e mois d'abonnement. Locter 1, je ne t'ai pas remercié. Ezekiel, je ne t'ai pas remercié. Je le fais, merci à tous les quatre, vous êtes super. Merci beaucoup Ezekiel pour le gentil message que je vois. Est-ce qu'il serait possible d'avoir l'avis de notre animateur, dit tuteur ? Qu'est-ce que j'en pense ? Moi, je pense qu'effectivement, il faudrait trouver un mix de tout ça, en fait. Je pense qu'il faudrait, pour que, c'est peut-être un peu naïf ce que je vais dire, mais je dis pour que cette, à partir du moment où on se rend compte qu'il y a un petit problème de financement pour quelques décennies et qu'il y a un problème de pyramide des âges pour assurer la solidarité entre les générations, je me dis que tout le monde devrait faire un petit effort, mais tout le monde. Peut-être que ça rendrait plus acceptable cette réforme. Alors je dis quoi ? Je dis, allez, on travaille un petit peu plus longtemps. Peut-être pas autant que voudrait le gouvernement, allez, un petit peu plus. On augmente un petit peu les cotisations, mais pas trop, un tout petit peu, pas trop. Salarial comme patronal. On baisse un petit peu les retraites, en tout cas les plus grosses retraites. Voilà, chacun fait un effort. Voilà. Et puis, je sais pas, on pourrait, je sais pas, innover, inventer. Tiens, la France est un des pays les plus touristiques au monde. Moi, je dis, il faut taper le portefeuille des touristes. Faut taper le portefeuille de touristes. Hein. On leur crée une petite taxe un petit peu discrète pour qu'ils ne se rendent pas compte. Moi, je propose que tous les restaurateurs, tous les hôteliers, comment, fassent payer plus cher les touristes, hein, voilà, discrètement, quoi, en disant faites voir votre passeport, un peu plus cher, sans leur dire. Et puisque ce serait pas très égalitaire, et puis après on donne les sous pour les retraités, quoi. Hein, petite taxe sur les touristes, hein, que vous en pensez, hein, petite taxe là, rapide là, s'ils voyagent c'est qu'ils ont un petit peu de sous, hein, voilà. Moi, allez, innovons un petit peu, taper les touristes un peu, voilà. Les actionnaires de certains grands clubs de football, oui, qui viennent de pays étrangers, oui, taxons tout ça, oui. Zazou me dit, mais comment séparer les touristes des locaux au restaurant, comment les reconnaître en quelque sorte? Bah, vous jugez, quoi, la louche, quoi. Hein. Oh, tu m'as l'air un touriste, toi. Boum, paf. L'omelette, 15 euros. Ah oui, mais c'est 13 euros la carte. C'est pour les retraites. Voilà. Si, pas compliqué. Comment ça, la taxe de séjour, ça existe déjà? Ah oui. Eh ben une autre alors, une plus grosse. Meilleur moyen de faire fuir les touristes. Mais non, parce qu'on leur dit pas, chevalier cru, on leur dit pas. Comme le dit Tonton Buzz, j'osais pas le proposer, mais Tonton Buzz l'écrit, donc allons-y. Tonton Buzz dit, ah, je sais pas, ton commentaire était sympa. Une bonne idée pour faire rentrer des sous dans les caisses. Je t'ai retrouvé. Il faut embaucher quelques pickpockets, pourquoi quelques des milliers, moi je dis, sur Paris, pour ponctionner les fonds des futures retraites directement dans les poches des touristes. Bien sûr. Oui. On crée un nouveau poste de fonctionnaires, hein, qui sont des fonctionnaires pickpockets. Voilà. Dans le métro parisien, dans les grandes gares en France, dans les aéroports. Au Trocadéro, voilà. Et ça fouille les poches, et ça prend du yen, et ça prend du dollar. Hein. Voilà, ça prend du dirham, ça prend de tout. Et voilà, discrètement, comme ça. Hein, voilà. Et puis s'ils sont arrêtés, ils ont une carte spéciale qui monte discrètement aux policiers, ils disent, ah oh, pardon, c'est pour les retraites, tout va bien. Pas de problème, que des solutions. Samuel Etienne, c'est quoi la prochaine présidentielle? 2023, plus qu'à 2027. Samuel Etienne, 2027. Pas de problème, que les solutions. Bon, j'ai plein de slogans prêts pour ma campagne. Pas de problème, que les solutions. Voilà, ça c'est le premier slogan. Vos idées sont mes idées. Ça c'est mon deuxième slogan. Ça fait des années que je le travaille. Imparable. Vos idées sont mes idées. Oui, mais on n'est pas d'accord ensemble. Vous n'êtes pas d'accord tous les deux ensemble? Vos idées sont mes idées. Impeccable. Tu vas voir. De la campagne. 2027, let's go. Ouais. Ah, ça va être vite fait, Salut Expat malgré lui qui propose la présidentielle, Étienne, j'espère que tu vas bien. Bon, j'arrête de dire des bêtises. J'ai très envie d'aller me chercher un petit café. Est-ce que je vais me chercher un petit café? Bon, 1h35 de stream, c'est un petit peu abusé. Un petit décal rapide là pour dernière ligne droite. Vous m'autorisez ou pas à me faire un petit décal rapide? Petit décal rapide, rapide. Après, je vous parle du Brésil et puis de Noël Le Graët qui dit des bêtises. Ok, on fait ça. Ok. Après, on lit Libération, Le Parisien. Ok. Putain, il y a Camille qui me dit non, il reste que 35 minutes. Oh, 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 oh. Esclavagiste. Esclavagiste. Il y a Clamakine qui dit je le trouve assez énervé, faut éviter le café de trop. Un petit décal, un petit décal. Moi, je prends un décal parce qu'après, je fais dodo. Ah non. Ok. Allez, je vous mets une petite pause. Hop. Une petite musique. J'ai trop soif. Un joli petit morceau de musique pour les abonnés. Une mini pub très très belle d'ailleurs pour les autres aussi. Pour me payer le café que je vais chercher. Et on se retrouve dans 3 minutes chrono. Je me dépêche. En plus, Solal est parti faire la sieste. Donc je pense que je ne serai pas alpagué sur le chemin du décal. On se retrouve dans 3 minutes les amis. C'est parti. Let's go. A tout de suite. Je rappelle que tous les subs que vous allez verser pendant mon absence vont bien sûr aller financer la réforme des retraites. Voilà. Vos idées sont les miennes. A tout de suite. J'arrive. C'est bien ça. Instru là, à la cool. Ah bon, le DK est là. Qu'est-ce que je vous ai mis là, n'importe quoi. Hop, le DK est là. Il est où le DK? Il est là. Et un petit peu d'un petit. Je mets un petit peu de sirop de gingembre dans mon café. C'est un peu bizarre, mais c'est très très bon. Ça pique un petit peu. Un grand merci fait ça vaut pour les 5 abonnements que tu as offert à la commu. Merci à toi. Merci Clem 564 également pour le 15e mois d'abonnement. Haha. Bon, on parle un petit peu du Brésil. Ok, Til Paris, c'est de très bonne humeur. Voilà. J'espère que tu as des soucis plus graves que celui que tu viens d'exprimer dans le chat. Til Paris, il écrit cette musique d'attente, ce rock ringard des années 80, ça me donne la nausée. Waouh! Tu te mets en colère sur des trucs super graves. Waouh! Excuse-moi, c'est juste de la musique, hein. C'est pas grave. Merci Royal Obar pour cet abonnement. Tu offres la commu, c'est pas grave. Bon, écoute, ok, la prochaine fois, je te mettrai du. J'ai un petit album de Richard Klederman de Tsous les Fagots que j'ai mis de côté. Je te lis ça. Je te jouerai ça très très bientôt. La lettre à Lise. Klederman, vous connaissez Richard Klederman? Non, non, bon. Excusez-moi, je suis parti sur autre chose. Allez, c'est reparti pour la caméra zénitale. On parle un petit peu du Brésil. Puisque hier, on s'est penché sur ce qui s'était passé. On était en mode très, très factuel. Et je vous disais, ah, ce serait intéressant d'avoir un petit peu d'analyse pour voir un petit peu bien ce qui peut se dire sur ce qui s'est passé au Brésil. Brésil, démocratie fragile, 2 ans après l'attaque du Capitole, parce que ça nous rappelle ce qui s'est passé. Oui, c'est pas la lettre à Élise, c'est la balade pour Adeline. Adeline, c'est vrai, pardon, j'ai tout mélangé. Oui, tu as raison. Yoas, quand tu as raison, c'est la balade pour Adeline. Oui. Avec ma maman, on écoutait ça dans sa Simca 1000. Hein. Elle avait l'album de Richard Klederman en cassette, qu'on mettait dans l'autoradio. Qui était dans la Simca 1000 blanche, avec des fauteuils en sky rouge, je me rappelle. C'est un grand souvenir, ça. Bon, le Brésil. 2 ans après l'attaque du Capitole par les partisans de Donald Trump, l'assaut des bolsonaristes, les partisans de Jair Bolsonaro, l'ancien président de l'extrême droite, qui en gros ne reconnaissent pas la victoire de Lula à la présidentielle, sonne comme un nouvel avertissement, on va lire l'édito de Libération à ce propos. Édito. Dans Libération, sur ce qui s'est passé au Brésil, Alexandra Schwarzbrod. Ce que beaucoup craignaient est donc arrivé. Une semaine après l'investiture de Lula à la tête du Brésil, des hordes de partisans de Jair Bolsonaro en furie ont fondu donc dimanche soir sur les principaux lieux du pouvoir à Brasilia, Brasilia qui est la capitale administrative, la capitale politique du pays, dévastant tout sur leur passage pour marquer leur refus d'accepter le résultat de la présidentielle et tenter un putsch. Sidéré et horrifié, la planète entière, y compris Moscou et Pékin, a unanimement condamné lundi les insurgés qui ressemblaient davantage à des fauves qu'à des révolutionnaires. Bon, Libération n'a pas beaucoup de sympathie pour les bolsonaristes. Ces scènes sont apparues d'autant plus choquantes qu'elles rappelaient en tout point celles de l'attaque du Capitole, vous vous souvenez ? Le 6 janvier 2021, Washington, par des Trumpistes ivres de rage, tentant de bloquer l'investiture de Joe Biden. Ce qui en dit long, et c'est là le plus grave, sur la fragilisation croissante de la démocratie que l'on avait tendance à considérer comme un acquis dans les pays ayant la chance de l'expérimenter. La bonne nouvelle, estime Libération, c'est que dans les deux cas, les fous furieux ont été stoppés et l'opinion, dans sa grande majorité, n'est pas basculée. On parle de ce qui s'est passé aux États-Unis, on parle de ce qui vient de se passer au Brésil, mais Libération est un peu inquiet ce matin. Combien de tentatives faudra-t-il avant que la digue ne cède vraiment ? Quant à Lula, il sait désormais qu'il ne doit jamais baisser la garde, et avec lui tous les chefs d'État démocrates et progressistes. En filigrane de cette édito, en fait, il y a l'inquiétude finalement de Libération que ce qui s'est passé. Je suis en pleine forme au Capitole aux États-Unis il y a 2 ans et ce qui vient de se passer dimanche au Brésil ne puisse se produire dans d'autres pays, y compris par exemple dans un pays comme la France. La cantine, merci pour le 4e mois d'abonnement. Et question, est-ce que vous pensez que ça pourrait se produire dans notre pays? C'est une question que je vous pose. Hein, ces scènes de Capitole envahi aux États-Unis, de ce qui s'est passé au Brésil, est-ce que vous pensez que ça pourrait se passer dans un pays comme la France? Alors, Achernard, dis donc, tu ne mélangerais pas tout, mon chouchou? En France, on l'a eu en 1789, en 1830, monarchie de juillet, 1848, Seconde République, si je ne dis pas de bêtises. Le point commun entre le Capitole et ce qui s'est passé au Brésil, c'est que vous avez des électeurs, dans une démocratie, qui avaient la capacité de voter, qui ont été battus lors d'un scrutin, et qui n'ont pas reconnu la victoire de l'autre camp. Hein. Les partisans de Trump qui n'ont pas voulu reconnaître la victoire de Biden, les partisans de Bolsonaro qui n'ont pas voulu reconnaître la victoire de Lula. Achernard, sans te faire injure, tu es bien d'accord que ce n'est pas tout à fait l'exemple de 1789 quand le peuple de Paris part en guerre avec ses fourches contre une monarchie de droit divin. D'accord, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Donc je repose ma question, est-ce que vous pensez que ça peut se passer en France? Maybe Inop écrit, bah, si l'extrême droite arrivait au pouvoir en France et ne voulait pas rendre ce pouvoir après une défaite ensuite aux élections, oui. Même analyse de Copolaire. J'ai du mal à l'imaginer honnêtement, dit Angora. Ah, c'est intéressant. Plus tard, pourquoi pas, dit Ojedad. Minuit 12. Oui, malheureusement, c'est envisageable avec un Zemmour ou un autre candidat qui attiserait une foule. Oui, totalement, surtout si un parti extrémiste passait au pouvoir, me dit Éloi. Superfuzz Big Muff estime que les gilets jaunes dans l'Arc de Triomphe, ça se rapproche un peu. C'est pas tout à fait la même chose. Il faudrait que le RN soit élu, perde 5 ans plus tard, ça pourrait arriver, estime 8-10. Oh, c'est chez moi, ne vous inquiétez pas. C'est ma protection antivirus. Comme par hasard. Merci Prax sur Twitch pour ce gentil message que je vois à l'instant accompagné par un sub. C'est gentil. Stone 2 nous dit Samuel nous met au défi. Non, je vous mets pas au défi. Non, non. Bah, Achernard, alors Achernard revisite l'histoire de France, puis revisite l'actualité. Achernard se met en colère, dit, alors, et sinon Trump, il a rendu le pouvoir ou pas? Bah oui, donc fin du discours sous le tyran Trump. Je te rappelle, mon chouchou, que c'est Trump lui-même qui a incité ses militants à marcher sur le Capitole et qui a très longtemps hésité à reconnaître la victoire de Biden et se mettant dans une colère noire quand ses proches, notamment le vice-président républicain de l'époque, a reconnu la victoire de Biden. Achernard, tu as une petite tendance à revisiter l'histoire de France et l'actualité qui me semble un petit peu problématique tout de même. Évidemment, c'est très intéressant de réécrire l'actu comme ça. D'ailleurs, Piolio nous rappelle que Trump continue de clamer la victoire, d'ailleurs, continue de dire qu'il a gagné, en fait. C'est une conception de la démocratie qui est assez intéressante. Voilà. Manu Turlututu, qui se rappelle de l'actualité d'il y a 2 ans, nous rappelle que Trump serait allé lui-même au Capitole si son service de sécurité ne l'aurait pas arrêté. Et c'est un fait, effectivement, et ça a été rapporté par son service de sécurité qui a dû l'empêcher, s'interposer pour l'empêcher d'aller lui-même au Capitole. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Ok, merci. Voilà pour cet édito de Libé là-dessus. Et maintenant, on finit très légèrement par quelque chose de subtil et de léger, hein, sur les mots, les comportements, les agissements du président de la Fédération française de football. Pas de retraite pour lui, il a 81 ans, il est toujours à la tête de la FFF, et puis
De plus en plus de voix s'élèvent pour dire bah, il serait peut-être temps finalement, monsieur Noël Le Graët, de passer la main là. Pourquoi ? Maintenant il faut partir, c'était assez clair, dit le Parisien ce matin. Pourquoi ? Déjà, il est sous le coup d'une enquête pour harcèlement. Il a été critiqué pour ses dérapages sur la question du racisme et de l'homophobie dans le football. Pour lui, il n'y a pas vraiment de racisme et d'homophobie dans le football. Le patron de la FFF 81 fait l'unanimité aujourd'hui contre lui après son attaque visant Zinedine Zidane, des sorties de route qui nuisent à l'image du foot français. Pas beaucoup de gens pour défendre Noël Le Graët. Allez, je suis très édito ce matin. Je me suis fait engueuler tout à l'heure par quelqu'un qui disait « Hey, t'en as pas marre de dire des éditos ?» Non, j'ai envie de dire des éditos aujourd'hui. Carton rouge, Frédéric Michel, rédacteur en chef Le Parisien. Gueule de bois et lendemain qui déchante. Ce lundi matin, on imagine le réveil chagrin de Noël Le Graët. Entre esprit confus et perception d'avoir encore dit ou fait n'importe quoi, le dirigeant breton... Eh, faut arrêter avec le racisme anti-breton, là. C'est pas parce qu'il est breton qu'il dit des conneries, hein. Faut arrêter, hein. En même temps, c'est l'édito du Parisien. Je plaisante. Le dirigeant breton a reconnu des propos maladroits et officiellement présenté ses excuses à Zidane. Et après, la triste vérité nous oblige à dire que cela ne suffit pas. Que cela ne suffit plus. Par respect, et parce qu'il a notamment contribué à relever le football français après le fiasco de Krishna en 2010, on aimerait lui trouver des circonstances atténuantes. Mais non, désolé, pas cette fois. Le constat est cruel, implacable. Noël Le Graët, 81 ans, ne maîtrise plus sa communication. Ses sorties deviennent autant des saillies incontrôlées ou déplacées qui fragilisent celles et ceux qui le soutiennent quand ce n'est pas toute l'institution. Accusé de sexisme, de ne pas faire assez pour lutter contre l'homophobie, et plus récemment au cœur d'une enquête pour harcèlement au sein de la FFF, Noël Le Graët se cogne de ses débats comme de son premier short. C'est un dirigeant de la vieille école, au cuir épais, résistant au pouvoir, résistant à la maladie, je crois qu'il a été malade effectivement, résistant aux épreuves et aux conflits, jusqu'à l'ivresse, sinon pourquoi s'attaquer gratuitement à l'icône des Bleus, donc Zidane, qui lui avait strictement rien demandé. Homme du passé, Noël Le Graët est aujourd'hui un dirigeant dépassé. Pas mal. Mais que personne n'a le pouvoir de destituer. Ça, c'est la question. Parce que bon, tout le monde lui est tombé dessus. Je crois que le procès, il est fait. Hein. Tout le monde est assez d'accord pour dire que ce monsieur a fait son temps et qu'il faut qu'il passe la main. Mais c'est la fin de cet édito que je trouve très intéressante. Noël Le Graët est un dirigeant dépassé, mais que personne n'a le pouvoir direct de destituer, sauf des élus de son comité exécutif qui pourraient décider de convoquer une assemblée générale à cette fin. Les citoyens peuvent se mettre en colère, les grands noms du foot français, à commencer par Mbappé, peuvent se mettre en colère, les politiques, la ministre des Sports, pour ne pas la citer, voire le président Macron, qui aurait été assez énervé par tout ça aussi, peuvent se mettre en colère, rien n'y fait. Ceux qui peuvent décider de le destituer, ce sont ses pairs, ce sont les membres du comité exécutif. Ce qui me fait dire que sa destitution, elle n'est peut-être pas pour tout de suite. Hein. À suivre. Il y a Nico Manga qui dit, j'ai vu hier la dernière vidéo de Romain Molina, mais il dit que Noël, donc Le Graët, est un petit joueur, les autres sont 10 fois pires que lui. C'est vrai que le milieu du football, ça a l'air assez intéressant quand même. Ouais, exactement. Exactement. Vous ne vous y attendez pas du tout. Vous ne le saviez pas. Horoscope. Ha ha, les nouveaux, les nouvelles, vous n'avez rien comprendre à ce qui se passe. Le premier, la première qui me donne son signe astrologique dans le chat. Bravo, ces poissons aujourd'hui. Eh bien, je lui lis. Oui, c'est un jeu débile ici. On n'y croit pas, mais on trouve ça très, très, très drôle. Quand arrive le Parisien et que je dis le mot magique horoscope, le premier, la première qui me donne son signe astrologique dans le chat. Oh, il y a MMG qui estime que c'est Balance qui a gagné. Non, moi j'ai poisson. Non. Ah non, Balance est très loin. Oh si ! Ah, j'avais loupé. Heureusement que les modos sont là. Désolé les poissons. C'est Château Lardon qui a gagné avec Balance. Ouais, c'est vrai, je m'étais raté. J'avais pas vu le Balance. Balance ton quoi ? Balance ton Le Graët du coup, c'est ça ? Allez, Balance, c'est vous qui avez gagné aujourd'hui. C'est parti. Balance, cœur. Vous avez envie de vous retrouver seul ? Et vous délaissez vos amis de plus en plus. Balance, qu'est-ce qui se passe, ce petit aspect de solitude là ? Qu'est pas ça ? Ok, ça arrive de vouloir se retrouver un petit peu tout seul. Réussite, aujourd'hui de nombreux choix s'imposeront à vous. Ça ne veut strictement rien dire. Ok, merci.
Forme, ménagez-vous, votre corps vous le réclame. Oh, balance, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Vous savez quoi ? J'avais vu que poisson avait été assez rapide ce matin et je ne lis jamais poisson. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes pas rapide, les poissons. Je sais pas. Les poissons, vous gagnez très très peu. Donc, on va un petit peu leur faire justice. On va dire poisson aujourd'hui. Cœur, votre partenaire ne vous surprend plus. Ah, c'est chaud ça. Ça, c'est chaud. Célibataire, ne soyez pas timide. Ok. Ouais, votre partenaire ne vous surprend plus. C'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Réussite, vous avez quelquefois tendance à aller à l'encontre de vos intérêts. Ok, vous êtes complètement débile quoi. Et les poissons, c'est. Hein? Forme, bonne condition physique. Bon, le cœur, c'est pas ça. Le boulot, c'est pas ça. Mais ça, la forme, ça va. Bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Tiens, je vais lire taureau parce que comme je suis un peu à la rue en ce moment, je vais voir si ça correspond. Alors, mon vrai état, c'est que je suis physiquement à la rue, intellectuellement totalement à la rue. J'en peux plus, j'ai envie de passer ma journée au lit. Hein. En vrai, c'est mon état d'esprit aujourd'hui. Voyons ce que dit l'horoscope pour voir si ce truc marche un petit peu ou si c'est totalement de la connerie. Cœur, vos amours sont à nouveau au beau fixe. J'aime bien ça. Réussite. Votre créativité sera très appréciée. Les nouveaux projets seront favorisés. Ça tombe bien, j'ai un petit truc pour vendredi. J'espère que ça va bien se passer. Forme. Évitez les mouvements brusques. Oh, c'est scientifique. C'est vrai. Taureau. Forme. Évitez les mouvements brusques. Il y a 3 jours, je faisais rien. Rien. J'étais à table. C'est parce que... Une vive douleur dans le poignet gauche. Gauche. Très... Aïe. Comme si je m'étais foulé le poignet. Et depuis 3 jours, j'ai super mal. D'ailleurs, s'il y a des médecins dans le chat, ça m'intéresse. J'ai super mal. Je peux rien serrer. Je m'auto-diague pour les... s'il y a des médecins là. Quand j'appuie au milieu de la main, j'ai mal, très mal. J'ai super mal. Voilà. Je sais pas quoi faire. J'ai jamais eu ça de ma vie. C'est même pas un mouvement brusque. J'ai eu ça d'un coup, quoi. Et mon horoscope me dit éviter les mouvements brusques. Alors c'est quoi ? Il y a des médecins là ? Arthrose, oh merde, Belbrunien, tu crois ? Il y a Jocelyn qui me dit c'est un cancer de la prostate, je suis médecin, je suis formel. Ah merde ! Canal carpien. Il y a Harry Chicu qui dit c'est la masturbation. La masturbation, il faut arrêter. Masturbation. Je connais pas. Canal carpien, c'est l'âge. Oh bah merci Didoun Braise. Vous êtes plusieurs à me parler de ça. Renan me dit j'ai eu ça l'an dernier. Bah c'est quoi alors du coup ? Il faut couper, me dit Mania Carta. Ah merde. Canal carpien. Mais c'est quoi le canal carpien ? Les médecins là. C'est le cancer du bras droit, me dit Sir Chouarou. C'est la main gauche, bordel. J'ai le même truc depuis 2 semaines, c'est un air comprimé. Oh bah si c'est que ça, Lucien, ça va alors. L'arthrose, opération du canal carpien. Va falloir amputer, me dit Morganas. Canal... Oh, c'est quoi le canard capien ? Je pense que tu es finito, Samuel, désolé. Tu devrais faire un IRM, moi je travaille trop là. Dans le doute, ampute, me dit docteur Vanel. Ah bah, c'est un docteur en plus, donc il faut que j'ampute. Cancer des oreilles peut-être, mais Binop. C'est quoi la masturbation, me dit Barbara. Je sais pas. Entorse de l'orteil, néo. Canal carpien, c'est l'âge, rien à faire, désolé. Ah bah super. Bon attends, on va aller voir ça. Hein. Syndrome, comment vous dites ça ? Syndrome du canal carpien. Tu tapes syndrome, c'est le premier truc qui arrive sur Google. Alors. Je suis sur le site de l'assurance maladie là. C'est bon ça. Oh mais je veux pas mon code. Ah, oh, ils m'ont marre le code postal. Oh là, on va taper n'importe quoi. On va taper 26 000. On va taper Montélimar, tiens. Bon, merde. Voilà, Drôme. Voilà, c'est ça. Je suis dans la Drôme. Ouais, c'est impeccable. C'est ça. Alors. Le syndrome du canal carpien est caractérisé par la présence de symptômes au niveau des 3 premiers doigts de la main. Ah non, moi, j'ai pas ça du tout, moi. Non, moi, c'est plutôt là. Non. Situé au niveau des 3 premiers doigts de la main. Hein, non, moi, c'est beaucoup plus. C'est là, moi. C'est là. C'est par là. Si, 26, c'est Montélimar. Oui, 26 000, c'est Valence, mais 26, c'est Montélimar, c'est la Drôme aussi. C'est la Drôme provençale. Vous n'allez pas m'expliquer la Drôme, quand même. Non, c'est pas ça. Ça marche pas. canal carpien. Ouais, ah non, non, la zone innervée par le nerf. Non, moi, c'est pas ça. Moi, c'est là, moi. Moi, c'est là. Donc, c'est pas ça. Donc, les docteurs du chat, là, vous êtes encore trompés. Nul, vous êtes nul. Nul. La lèpre, me dit DG Cul-de-sac. Ouais. Ouais. La chouette rouge, quand tu veux, je t'attends au pays du nougat. J'ai vécu à Montélimar, la chouette rouge. J'ai vécu un an à Montélimar. J'étais rue, dans la rue principale, là, où il y avait un cinéma, là. La rue piétonne au milieu, là. Comment ça s'appelle? La rue Pierre-Julien. J'ai habité rue Pierre-Julien pendant un an. Au-dessus d'un cinéma un peu d'ARS, là. Il y a toujours des jeunes qui venaient fumer des cigarettes bizarres dans mon escalier. Rue Pierre-Julien. Voilà. Je mettais devant ma porte. C'était dur de sortir de chez moi, parfois. Alors, c'est quoi? Arthrose, monoarthrite, tendinite, syndrome de la souris d'ordinateur. Mais non, c'est l'autre main. C'est l'autre main. C'est ce qui nous ramène à la maturbation, me dit Aricq. Si ça monte dans le coude et les épaules, c'est une belle tendinite. Non, pour l'instant, ça ne monte pas. Ouais. Tu as peut-être dormi sur ton poignet. Ah bah, j'aimerais que ce soit un truc tout simple. Ah, c'est peut-être une twitchite aiguë, me dit Ticlem. Juste fatigue de la main, je pense, repos. Oh, merci Spade. Il y en a qui sont en mode cool. Il y en a, ouais, c'est bon, t'as un cancer des oreilles, faut amputer. Et d'autres qui sont un peu en mode, ça va aller, quoi. Tu travailles trop, repose-toi. Ça, c'est sûr, ça. Mauvais mouvement. Oh, c'est trop mignon parce que vous êtes plein à vouloir me rassurer. Vous êtes trop cool. Oh, vous êtes formidable. Alexandra me dit, mets du froid sur ta main ou de l'eau. D'accord, ok. Ok, ouais. Tu es gaucher? Non, je suis droitier. Mais je suis droitier, mais de la main gauche, en fait. Aïe, putain. J'ai mal quand je touche ma main. D'après Doctissimo, cancer généralisé. Ok. Bon, bah, je vais vous léguer ma chaîne Twitch, alors. Qui veut devenir mon légataire? Non, légataire, celui qui lègue. Bref, qui veut ma chaîne Twitch? Je lègue ma chaîne Twitch. Voilà, je lègue ma chaîne Twitch. Wiki, Jocelyn, John Snowboard, ouais. Ouais, MMG, ouais, Daligo, ok, ok. Ah bon, écoutez, bon, écoutez, bon, ouais, ok, je vous m'avais convaincu. Je vous donne ma chaîne Twitch maintenant. Pour la modique somme de... Je fais un petit calcul dans ma tête. 10 millions. Pour la modique somme de 10 millions de subs, pour la modique somme de 10 millions de subs, là maintenant, en un clic de souris, 10 millions de subs, je vous lègue ma chaîne Twitch. Voilà. Si quelqu'un fait claquer, si je vois la cantine, Royal au bar, fait Savo, Prax sur Twitch, pour prendre les derniers qui ont subs, à renouveler son abonnement pour 10 millions de subs, je lui donne ma chaîne Twitch. Genre je lui envoie la clé de stream, tout, quoi. Ouais. Voilà. N'hésitez. J'attends, mais je ne vois pas du tout de personne qui... Bon, pourtant, c'est donné. Ouais. À ce prix-là, c'est donné. Bah oui, me dit Calouin. Oui, bah oui. Mais on l'a vu, vous êtes en train de sortir votre carte. Ah, ça va jouer à la vitesse. Hein. Le premier qui arrive à faire tous ces numéros de carte bleue, là. Ouais. Avec les setups de stream, bah, tout, je lègue tout, là, à ce prix-là. Oui, oui. Ah, les amis. Merci, mille merci. Vous me faites tellement de bien. Je dis ça très sérieusement. Je ne cache pas qu'en ce moment, je suis un petit peu fatigué. Je suis pas le seul, c'est l'hiver. Les 15 jours de maladie m'ont bien séché. J'aurais préféré passer 15 jours de vacances ailleurs qu'au fond de mon lit. Et puis, c'est vrai que les 6-7 ans de matinale, là, commencent à peser un petit peu. C'est vrai que je suis un peu dead. J'ai un moment qui m'aide beaucoup en ce moment. C'est quand je vous retrouve et qu'on échange ensemble, notamment le matin dans la matinée. Ça me fait vraiment beaucoup de bien au moral. C'est comme un petit médicament. Voilà. Bio, en plus. Voilà. Donc merci pour tout ça. Normalement, on va peut-être se retrouver pour une parole Étienne spéciale retraite ce soir. Je dis normalement parce que j'ai peut-être un petit problème d'emploi du temps, mais voilà, dans ce cas-là, ce serait reculer pour mieux sauter. On la fera un petit peu plus tard, mais je vous tiens au courant, bien sûr. Oh, ça te chaud, je suis dégoûté, je viens seulement de voir la notification de stream, j'arrive à la fin, c'est pas grave. C'est pas grave. T'as le replay, mon chouchou. Voilà. Et ben, je vous souhaite une très très belle journée. Je vais aller faire une petite siestoune. Voilà. Une petite siestoune. On se retrouve, alors pas demain matin, ça c'est sûr. Hein. Donc peut-être ce soir, peut-être. Pas demain matin, parce que demain je commence ma semaine qui pique. Mercredi, jeudi, vendredi, double journée, question pour un champion, France Info. Vendredi soir, l'hebdo Étienne, avec Jean Massier, avec Marie Palot, avec Monsieur Poulpe, on va se régaler. Il y aura un petit peu de revue de presse le week-end, notamment dimanche matin, c'est sûr. Et puis lundi, mardi, mercredi, jeudi de la semaine prochaine, encore des doubles journées France Info question pour un champion. Je vais mourir. Voilà. Donc merci pour votre soutien parce que vous êtes, vous faites partie des trucs qui me font tenir ce rythme un peu foufou. Merci Daligo pour ce troisième mois d'abonnement, plus que 9 999 999 subs et cette chaîne est à toi. J'en vois deux qui s'engueulent dans le chat depuis 5 minutes, là, qui s'envoient des noms d'oiseaux. Hey, aimez-vous. Faites l'amour, pas la guerre, les amis. Voilà. Envoyez de l'amour tout autour de vous. On fait un petit raid. Proposez-moi maintenant dans le chat, je sais pas, moi, des noms de streamers, de streameuses qui sont en live actuellement, à qui ça ferait plaisir un petit raid là, pour soutenir un petit peu l'activité, pour éclairer un petit peu le travail. Voilà, on est aussi là pour ça, pour envoyer du soutien et de l'amour. Alors, Gaspard TV, j'adore, il est en Inde, je sais, en ce moment, Renan, mais... Je l'ai raid il n'y a pas longtemps. Joe, je l'ai raid hier. Pas, même si c'est un super pote, pas toujours les mêmes. Allez, je vous mets 2 minutes de musique, même pas de pub. Hop, 2 minutes de musique pour tout le monde. Et dans 2 minutes, on raid. C'est parti pour les propositions. Un bon vieux rock des années 80 pour ceux qui aiment. C'est parti. Alors, ça dit quoi? Et ça charge, voilà. C'est un garçon parce que je le vois parce qu'il a une moustache. Enfin, parfois, il y a des filles qui ont des moustaches. Bon, pardon. Là, c'est un garçon qui a une moustache, c'est un garçon qui a une casquette. C'est un garçon qui joue au Tetris actuellement. À Tetris, voilà. Et puis, personne ne le connaît parce qu'il s'appelle Arnaud de sa mère. Vous le connaissez pas, bien sûr. L'excellent, le très sympathique, le chaleureux et joueur de Tetris, Arnaud de sa mère, faites-lui un petit coucou de ma part. Je vous souhaite une belle journée, soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous, et je vous dis à très bientôt, bande de beaux gosses. Merci pour tout.